Sentaludos, increíble podcast. Sentaludos, increíble podcast. Sentaludos, increíble podcast.
Bonjour, bienvenue dans ce Simperludo Incredibles podcast numéro je sais pas combien, parce que j'ai mal regardé ma fiche.
26,
merci beaucoup d'avoir des gens qui suivent mieux que moi. Je suis Founet et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du podcast. Podcast du site simperludo.com sur lequel vous retrouvez toutes sortes d'articles qui parlent de jeux vidéo. Et justement aujourd'hui on va passer une heure ensemble, peut-être un peu plus, à parler de jeux vidéo puisque le jeu vidéo... c'est super! Et si vous voulez récupérer ce slogan, faites-en des t-shirts, je vous le donne. Aujourd'hui, je suis accompagné par Taiki. Salut!
Salut!
Qu'est-ce que tu as reçu à Noël?
Qu'est-ce que j'ai reçu à Noël? Des skis.
Des
skis? C'est probablement pas de ça que tu veux parler.
Si, si!
J'ai reçu une PlayStation Portal.
Ah, très bien!
Que je vais devoir rendre.
Ah, mais... c'est pas un vrai cadeau alors.
Ouais, il est bizarre le Père Noël, ça n'est. Mais oui, je vais tester une PlayStation Portal.
D'accord, ok, ok. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt...
Il y a probablement des critiques à faire, mais je kiffe bien.
Ok.
Ouais.
Alors, donc la PlayStation Portal, on en a parlé un petit peu dans le mini-slip sur Diablo avant les vacances. Et donc c'est un écran qui te permet de streamer ta PlayStation à distance sur
exactement.
Un support portal, un portable.
Ouais.
Donc c'est un petit écran avec deux manettes de chaque côté et tu peux. Mais tu dois laisser ta console allumée à la maison, c'est ça?
Ça allume ta console à distance.
Ah, tu peux l'allumer à distance?
Oui, oui, quand même, sinon ce serait un peu complexe.
Ah, pas bête. Bah, c'est génial alors en fait.
Ouais.
Mettez mon 3.
Bah, volontiers. Hein, c'est... Je peux les acheter sur le compte de Samperlino.
Très, très bien, très très bien.
Et je pourrais peut-être même en toucher un petit mot aujourd'hui.
D'accord, on verra. Très bien. Ouais. Super. Et avec nous aussi aujourd'hui, Plisken. Salut Plisken.
Salut.
Comment ça va?
Bah, ça va pas mal du tout. Bonne année.
Merci, bonne année à toi aussi.
Voilà, que... maintenant je passe pour un salaud.
Ouais.
Merci. Si, ça me fera un truc à dire.
C'est original, très bien. Qu'est-ce que toi t'as reçu pour Noël?
Ben, des cintres personnalisés. Parce que mes enfants sont à l'école primaire alors.
Oh, c'est chou, ouais. Ça c'est cool. Trop bien.
C'est moins ludique qu'une une PlayStation portable, mais c'est pratique pour accrocher des vestes par exemple.
Par exemple. Et tu peux aussi les transporter finalement.
Oui, oui, c'est portable.
C'est portable.
Bon, remarque, tu peux peut-être accrocher des vestes sur une PlayStation portable. Mmh. Je peux essayer.
Possiblement, à tester.
Le débat
je
est
mettrai dans le test.
Très bien. Et nous sommes accompagnés également par Mush. Ah bah non. Ah bah il est pas là. Ah bah qu'est-ce qui se passe? Non, Mush a été appelé en urgence au festival, au forum de Davos. Un truc à régler avec le gouvernement chinois, j'ai pas très bien compris. Mais donc du coup on le salue, il devait être avec nous aujourd'hui et malheureusement il est pas là. Mais c'est pas grave, on sera bien assez de trois pour aujourd'hui pour tenir le crachoir. Et comme d'habitude, on va commencer par parler un peu des jeux qui vous ont occupé pendant ces périodes. Peut-être que vous avez eu un peu des vacances et que vous avez pu profiter de jouer un petit peu. Ou même si vous n'avez pas eu de vacances, je vous fais confiance pour avoir eu le temps de jouer. Donc on va parler un petit peu des jeux du moment et puis ensuite on fera une discussion. Sur une question centrale, faut-il s'habituer à ne plus posséder ses jeux vidéo? Pour faire un écho à ce qu'un homme sûrement très sage de chez Ubisoft a dit tout à l'heure, mais on en parlera plus en détail, enfin tout à l'heure, dernièrement pardon, on en parlera nous tout à l'heure. Voilà. Plisken, est-ce que tu as envie de commencer?
Ouais, pourquoi pas.
Super.
Alors, moi je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Mini Metro. Alors, c'est sorti en 2015. Je reprends mes fiches. Donc oui, c'est sorti en 2015. C'est développé par Dinosaur Polo Club, qui est un nom qu'en jette, je trouve.
Effectivement, oui, c'est vachement licheur comme truc.
C'est ça. Et c'est édité par EGM PlaySim, que je ne connais pas. Donc, c'est un jeu de gestion, simulation de transport public, mais aussi de puzzle. Alors, c'est un petit jeu assez minimaliste, parce qu'en fait... les stations sont représentées par des formes géométriques, des ronds, des carrés, des triangles. Et vous devez les relier avec des lignes qui sont donc en couleur, un peu comme les fameuses images du métro de Londres, pour ceux qui ont la ref.
Ah oui, oui.
Ah, ouais,
okay. Et où du coup, vous devez relier les stations entre elles et essayer d'optimiser un peu le truc, parce que sur les stations vont apparaître des symboles plus petits, qui ont les mêmes symboles en fait, que les stations, qui seront les voyageurs. Donc si, je sais pas moi, si sur un rond il y a des petits triangles qui apparaissent, bah c'est qu'il faut les amener à une station triangle.
Ah, ok.
Et du coup, ben, des stations apparaissent continuellement pendant la partie, ce qui vous oblige à améliorer votre réseau au fur et à mesure. Et du coup, bah, quand y a trop de gens qui attendent à une station depuis trop longtemps, il y a un timer qui se déclenche, et du coup, à la fin du timer, bah, vous avez perdu.
Ok, ok.
Donc, en fait, le jeu se déroule en temps réel, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les heures et les jours qui passent. Et à la fin de chaque semaine, vous obtenez une nouvelle locomotive.
Ouais.
Et ensuite, vous avez le choix entre deux bonus. Alors, ça peut être soit une nouvelle ligne, parce que vous en avez que trois, je crois, au départ de chaque partie. Et vous pouvez aussi obtenir ben, des ponts et tunnels qui vous permettent de traverser des rivières. Vous pouvez vite être embêté s'il y a une nouvelle station qui apparaît du mauvais côté de la rivière et que vous n'avez plus de tunnel. C'est un truc à anticiper un petit peu.
Ok.
Vous pouvez aussi obtenir des wagons que vous pourrez mettre sur vos lignes pour que les locomotives transportent plus de passagers à la fois et tout.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont... Alors, je vais nouveau reprendre mes fiches. Il y a un nombre de villes assez incroyable, je ne sais plus combien.
Mais c'est des villes qui existent vraiment ?
Oui, ah exactement. Ouais, alors, okay, il y a 31 cartes différentes. Alors, au départ, je crois que vous avez Londres, Berlin, New York, mais ensuite, bah, vous pouvez avoir Budapest, Berlin, Melbourne, Hong Kong, Osaka... Osaka, c'est intéressant parce qu'il y a ces trains hyper rapides comme il y a au Japon.
Oui, oui.
Donc, qui servent à rien en ville. Mais ouais. Par contre, pour relier des stations éloignées, bah, ça peut vous permettre d'optimiser le truc, pardon. Et c'est vraiment, ouais, c'est un petit jeu qui détend. Enfin, vous pouvez arrêter le temps quand vous voulez pour réorganiser votre réseau et tout. Vous pouvez aussi accélérer le temps si vous trouvez que c'est trop bon. Du coup, ça détend moins. Et du coup, bah, le jeu est disponible sur Windows, Linux, macOS, mais aussi sur Android et iOS. Je pense que jouer sur téléphone ou tablette, ça doit être très bien.
Ouais,
moi,
je
joue sur PC, mais...
C'est ce que j'allais te demander, en fait. Ouais. Vu comme tu l'écris, c'est vrai que ça...
Ouais, ouais, en tactile, ça doit marcher ça nickel, quoi. Il est aussi disponible sur PlayStation 4 et Switch.
Je pourrais jouer sur Portal, en fait.
Probablement.
Ça va être le fil rouge, ça. Est-ce qu'on peut y jouer sur Portal?
Est-ce qu'on peut y accrocher une veste et...
Ok, comment t'es arrivé dessus?
C'était Joueur du Grenier qui avait fait une découverte dessus à l'époque.
Ok.
Et je trompais en illégal parce que j'étais pauvre à l'époque. Et maintenant que j'ai un peu les moyens de m'acheter des petits jeux, bah, du coup, je l'ai pris sur Steam. Ouais. Et du coup, j'ai joué avec mes enfants.
Ah, cool.
Qui sont jeunes. Et du coup, bah, c'est un jeu qui est hyper simple à comprendre, même pour des jeunes enfants. Et,
trop bien.
Et ils comprennent un peu la logique et tout. Et du coup, c'est cool.
Ouais.
C'est un jeu qu'ils aiment bien pour le coup.
Ouais, ouais, excellent.
Oui, ils aiment bien Witcher 3 aussi. Donc. Je leur montre pas les cinématiques, évidemment.
Ouais, mais évidemment.
Mais voilà. Ah ouais, puis ouais, du coup, je l'ai pas dit, mais les stations qui apparaissent, ça peut être des... Il n'y a pas que des ronds, des carrés, des triangles. Tout à coup, vous pouvez commencer à avoir des étoiles ou des pentagones qui, du coup, seront moins fréquentes.
Oui. Alors,
par exemple, s'il y a une station étoile, bah, il n'y en aura peut-être qu'une dans toute la game. Et du coup, il faudra essayer de vous démerder pour que votre réseau, qui est plusieurs lignes, en fait, qui amène à ça, pour pas que les gens doivent toujours faire un immense détour et tout.
Ouais, ouais.
Et dans les bonus, vous pouvez aussi obtenir des stations améliorées.
Ouais.
Qui permettent d'avoir plus de gens et qui, du coup, pètent moins un câble vite. En fait, votre timer se déclenchera plus tard et sera plus long dans les stations optimisées.
Est-ce que tu dois gérer aussi les joueurs de guitare dans les couloirs du métro?
Non, ça, c'est autogéré.
Ah, c'est bien, ça. Système qui fonctionne.
C'est ça.
Ouais. Et puis, une fois que tu as fini toutes les villes, il y a une fin où c'est un peu géré, c'est pas généré procéduralement, mais un truc du genre qui fait que la ville, tu peux la rejouer indéfiniment.
Ah, tu peux de toute façon la rejouer indéfiniment pour essayer d'améliorer ton score et tout.
Ah, ok.
Après, il y a des objectifs sur chaque ville. Et ben, quand tu atteins certains objectifs, ça te débloque la ville d'après.
Ouais.
Et du coup, ça évolue comme ça. Il y a aussi un mode sans fin, sauf erreur.
Ah ouais.
Que j'ai pas spécialement testé parce que c'est déjà, enfin, il y a déjà bien assez à faire avec le jeu de base, mais
ouais. Okay, là, ça me fait penser à un.
C'est ça.
Ouais, exactement.
Ah ouais.
Un franc 10 si jamais sur Android.
Ok.
Bah, c'est encore plus là, pour nos auditeurs et nos auditrices. T'as sorti ton téléphone et tu nous montres les images et donc du coup, effectivement, c'est plus minimaliste que ce que j'imaginais.
Ouais, c'est ce que je voulais voir effectivement. Ouais. C'est vraiment
du coup, c'est très clair.
Tu un écran gris avec les tracés de métro. En couleur dessus.
Ouais, exactement.
Des petites formes.
Et il y a un mode nuit pour, qui est, je crois, d'après ce que j'ai lu, particulièrement adapté aux daltoniens.
Ah, ok.
Donc c'est cool d'y repenser, mais rien, parce qu'un jeu où c'est des formes et des traits de couleurs, c'est peut-être bien de penser aux daltoniens aussi.
Et on les salue.
Ouais.
D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a reçu un communiqué de presse cette semaine pour l'annonce d'un jeu où ça a l'air d'être le même principe, mais à un niveau ingénieur. C'est-à-dire que tu dois réfléchir vraiment l'électricité des enfin c'est vraiment ce que tu as sur l'écran, c'est que des tableaux de lignes qui se croisent et tu dois générer quand est-ce que tu bascules l'électricité, les aiguillages. C'est vraiment une gestion de gare hyper pointue. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment marrant? Est-ce que c'est encore fun? Tandis que là, ce que tu nous présentes là, ça a l'air quand même assez marrant.
Ouais, c'est hyper accessible et c'est fun, quoi. Après, pour Wes, le jeu dont tu parles, c'est peut-être plus faux. Faut demander à Zivon qui aime bien les jeux.
Ils ont quand même un souci psychologique.
Sans aller jusque là, mais disons, les gens qui aiment bien travailler sur leur jeu. Quoi.
C'est ça. Ok, et puis là, t'es pas arrivé jusqu'au bout encore
Non, j'ai débloqué presque toutes les villes, mais j'ai pas tout fini, parce qu'il y en a où c'est dur, pour le coup, parce que les passagers s'accumulent vite, parce qu'en fait, à tout moment, tu peux complètement redéfaire ton réseau, enlever une ligne, tout remettre, changer les locomotives de ligne. Je crois qu'il y a un maximum de 4 locomotives par ligne,
donc
tu peux pas avoir une grosse ligne qui aurait toutes les locomotives
qui tournent
toutes seules, quoi.
Ouais.
Ouais, ça demande un peu d'optimisation dans certains cas.
Et peut-être que tu l'as dit avant, mais que ça m'a échappé, mais est-ce que tout d'un coup on te donne un objectif du genre, il y a un quartier qui s'est développé dans cette région, maintenant la municipalité voudrait élargir le métro
Pas exactement, mais par contre, vu que tu as des stations qui apparaissent un peu partout à tout moment, comme je disais...
Elles apparaissent, d'accord.
Et du coup, comme je disais, il peut y en avoir qui apparaissent dans plusieurs stations qui apparaissent dans un coin. Alors au début, tu te dis, j'étends une ligne là-bas, puis au bout de la 5e station, tu es là, non, mais en fait, il va falloir faire une nouvelle ligne pour ça.
Ouais, d'accord.
Et du coup, si tu n'as pas de ligne de réserve ou que c'est du mauvais côté de la rivière, puis
t'as pas de tunnel, Ouais, cool. Donc là, on a perdu Taiki. Il est parti.
Je comprends pas complètement ce que je fais. Il y a des trucs de couleurs qui bougent sur l'écran.
C'est captivant, c'est bien.
Ouais, puis c'est assez calmant visuellement.
C'est très
sobre comme ça, c'est très...
Je vais peut-être faire ça tout à l'heure un petit peu, pour me détendre.
Je vais arrêter.
Ok, donc Mini Métro, t'as dit le nom.
Ouais, tout à fait.
D'accord, c'est vrai, j'avais jamais entendu. Très bien. Donc si c'est un Mini Métro, est-ce que c'est un mini avis ou bien t'as plus de choses à...
Vu que c'était un peu court, parce que j'avais pas...
C'est très bien. Quoi.
Mais du coup, je vais pas en parler trop longuement, parce qu'on a commencé une partie avec le camarade Dynamic, que je salue, de The Forest, mais on n'est pas allé très très loin.
Ouais.
Donc je vais en parler très vite fait. Donc The Forest, édité et développé par End Night Game, est sorti en 2018, apparemment. Et qui est donc un jeu de survie à la première personne, en multijoueur. Le jeu commence, vous êtes dans un avion, il y a un enfant, l'avion se crash, vous atterrissez sur une île, abonnez-vous si ça vous rappelle une série, et du coup là il y a un humanoïde étrange qui kidnappe l'enfant, et du coup vous allez devoir vous débrouiller pour, le but de la quête à long terme c'est de sauver l'enfant, mais vous allez évidemment pas pouvoir le faire tout de suite, d'ailleurs c'est un peu la blague récurrente du jeu, c'est Timmy, il va falloir attendre un petit peu, là on construit une cabane, on fait autre chose.
Attends, je peux optimiser mon silex, bouge pas.
Donc détendons-nous. Mais du coup, vous récupérez du stuff dans l'avion, vous pouvez péter les valises sans sonite éparpillées un peu autour du lieu du crash. Et du coup, le jeu, c'est qu'il faut collecter des ressources, il faut crafter, il faut se débrouiller pour survivre, en fait. Et du coup, vous pouvez, construire un abri, faire du feu... attraper des bestioles, déforester une forêt, enfin quelle que soit votre passion, quoi. Et vous devrez cohabiter avec des tribus de cannibales mutants qui ont enlevé Timmy, du coup. Alors nous on a choisi l'option belliciste dès le début, c'est-à-dire qu'ils sont venus puis on les a enfin on s'est un peu agressé mutuellement, mais disons qu'on n'a pas été très passifistes non plus. Mais d'après ce que j'ai vu, en fait il y a moyen qu'ils essayent de communiquer, d'essayer de faire des signes avec eux et tout. Une approche qu'on n'a pas encore essayée. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vous avez une jauge de vie, une jauge d'endurance, mais aussi une jauge de faim et de soif. Vous devez boire, vous trouvez des canettes de soda dans l'avion, aussi de l'alcool, parce qu'apparemment dans ce jeu, l'alcool, ça hydrate.
Ça n'hydrate pas
en vrai, non sucre.
Ah d'accord.
Et du coup nous on s'était mis à côté d'une rivière en se disant comme ça on aura de l'eau à boire tout le temps, et manque de bol, c'est de l'eau non potable.
Ah d'accord.
Donc on devait faire je sais pas combien de kills pour aller trouver une flaque d'eau croupie qui du coup t'hydrate mais te blesse.
Ouais.
Donc c'était pas opti, quoi. Faudra qu'on essaye de faire mieux la prochaine fois. Et puis autrement, vous pouvez tuer toutes sortes d'animaux, vous pouvez abattre des oiseaux en plein vol avec une hache si vous êtes un peu habile, vous pouvez tuer des
varans. C'est gratos.
Ouais, exactement. Mais du coup, bah, la viande pourrie, enfin, il y a un côté un peu à la Don't Starve, mais en plus photoréaliste, plus immersif.
Ouais, ça, bah, c'est en mode, en vue FPS, je regarde les images là.
Ouais,
et exactement. Puis assez bien fait.
Ouais, bah, enfin, pour dire que c'est quand même un vieux jeu, je crois que le 2 doit sortir ou est sorti.
Ah, ok, il est en accès anticipé. Ouais, Son of the Forest.
Ah, c'est possible. J'ai vu qu'ils en parlaient, mais du coup, nous, on s'est mis au 1.
Ouais. Oui, parce qu'il est d'actualité, parce qu'il vient de sortir le Son. Mais alors, je suis plus sûr s'il est en accès anticipé ou il est sorti, mais je vais vérifier. Mais effectivement, ce que je trouvais intéressant avec ce jeu, c'est que vu que t'en as parlé, on peut le dire, le côté des humanoïdes, là, apparemment, c'est quand même un truc que tu sais pas vraiment au début, non? Enfin, enfin, j'ai l'impression que c'est devenu un peu, tout le monde le sait maintenant parce que tout le monde en a parlé sur Internet, mais que le but du jeu, c'était aussi un peu tout d'un coup de tomber sur eux, puis de se rendre compte qu'ils sont là, qu'ils sont dans les cavernes et puis que,
bouffer. Il y a des cavernes que tu peux explorer et tout. Et puis justement, il y a des trucs un peu ironiques. Par exemple, tu peux manger des jambes de cannibale. Uh-huh. Parce que l'ironie de la vie est parfois bien ironique. si t'as plus de varan crevé, tu peux manger une jambe d'un cannibale que tu viens de tuer. Mais il y a aussi des moments un peu de poésie, quoi. Par exemple, si tu fais rien pendant un petit coup, bah, t'as quoi, il y a un oiseau qui vient se poser sur ta main.
Oh.
C'est trop mignon. Et puis ensuite, bah, tu manges une jambe de.
Je croyais que t'allais dire, après, tu manges l'oiseau.
Tu peux aussi.
Ok.
Non, j'étais très surpris quand j'ai réussi à abattre un oiseau en plein vol avec ma hache, j'y croyais pas, quoi. Puis j'étais, du coup, je peux le manger.
Ouais. Alors, je te confirme, il est sorti le 2 est sorti en décembre 2023 et on est en accès anticipé.
Ok.
Il s'appelle Sons of the Forest.
Mais le 1 est très, je joue pas à beaucoup de AAA, mais il est pas horrible, il y a pas un côté, ça pique les yeux, il est plutôt bien optimisé et c'est tout à fait jouable.
Quoi. Ouais. Ça, c'est en accord avec le credo Semper Ludo. Tu peux toujours jouer un jeu d'il y a 4 ans, 4-5 ans plus tard, ça vaut toujours la peine.
Bah, il y en a, il pique un peu les yeux, enfin, il y en a.
Ouais,
le,
ouais, ouais.
Il y a un gap technique qui fait que c'est moins intéressant, mais en tout cas pour celui-là, je trouve que c'est très correct.
Mmh. Ah, excellent. C'est vrai qu'il m'avait assez intéressé, plus par son propos, parce que c'est vrai que moi, les jeux de survie, de crafting, etc., je commence un peu à en avoir marre. J'ai l'impression qu'on refait un peu tout le temps la même chose.
Ouais, ouais.
Ce que tu disais, le fait de gérer la nourriture, la santé, ça me faisait penser aussi à Scum, qui avait fait beaucoup parler de lui, parce que tu devais tout gérer jusqu'à ton état digestif. C'est un peu starbé. Et puis, t'avais pas d'indicateur de nombre de balles, tu devais essayer de te rappeler combien de balles t'avais dans ton chargeur, etc. Moi, je me dis, ce genre de jeu, enfin, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi j'ai l'impression qu'on fait un peu tout le temps la même chose. Mmh. Puis là, dans The Forest, je trouvais le propos était peut-être plus intéressant que la proposition du jeu lui-même. Mais je sais pas ce qui vous a convaincu de vous lancer là-dessus plutôt que sur un autre.
C'était pour changer un peu de Baldur's Gate parce que on a fait un peu que ça les 3 derniers mois.
Ouais.
Non, puis y a des trucs marrants. Enfin, après c'est glauque à souhait, hein. Mais par exemple, vous pouvez crafter à peu près tout. Mm-hmm. Des collecteurs d'eau avec des carapaces de tortue, enfin voilà, des trucs un peu starvés. Mais vous pouvez aussi fabriquer des lustres avec des crânes humains et des os.
Y a une petite ambiance, quoi.
Ouais, ouais, ça, mais t'es pas obligé de partir dans le sordide, mais tu peux. Si c'est ton délire, si t'as envie de te faire un truc à la tuer en série, c'est faisable.
Et tu peux jouer jusqu'à combien?
Je crois que c'est 4.
Ok.
Si je dis pas de bêtises.
Ouais. D'accord.
Et t'es pas en compète avec d'autres joueurs, d'autres équipes de joueurs.
Non, c'est vraiment t'es 4 potes sur une île et puis t'essayes de
survivre contre l'ordi, quoi.
Enfin, exactement.
Ouais. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que comme ça, ce que tu dis, Founel, les trucs de craft survival, je peux plus, je crois. Enfin,
ouais.
J'ai l'impression qu'ils font tous exactement la même chose, un peu de choses près de nouveau. Puis souvent l'ambiance ça change beaucoup.
Ouais, ouais.
C'est ça qui est un peu le truc. Bon, là ça a l'air assez intriguant quand même.
Mais... Ouais, puis le fait, bon, moi j'avais joué à Vanheim, à Don't Starve et à d'autres, mais le fait que ce soit en vue FPS, moi j'en avais pas fait de jeu comme ça en FPS, et du coup c'est immersif un peu, quoi.
Ouais.
Pendant les bagarres, c'est un peu la panique, quoi, parce qu'en plus, je crois que l'intelligence artificielle est plus ou moins bien développée, parce que les mutants cannibales, ils s'entraident entre eux. S'il y en a un qui est blessé et que tu le laisses tranquille, les autres ils viennent puis ils essayent de le ramener.
C'est
un cercle.
Ils le bouffent pas.
Je crois pas, peut-être à la maison. c'est peut-être un peu à l'emporter, je ne sais pas.
Mais... J'ai cru que tu allais dire, ils sautent dessus, ils le bouffent.
Non, ça aurait été marrant, mais.
Poserai pas.
vous avez pris un snack avec.
Comme vous y allez.
Pardon.
Mais c'est vrai que, enfin, de manière générale, le crafting dans tous les jeux commence un peu à me saouler. Après, si c'est un jeu qui est vraiment, si c'est une des mécaniques principales, tu viens pour ça. Donc je me dis, ok. Mmh. Mais tu vois, quand t'as d'autres jeux où on te demande de récolter 500 ressources, machin, on parlait de God of War en préparant le podcast tout à l'heure parce que tu le testais sur ta Portal.
Oui.
Mais voilà, typiquement, God of War, quand tu dois ramasser des ressources pour crafter des armures. Oh,
c'est... Bon, et encore, c'est bien léger dans God of War.
Ouais, je suis d'accord, mais ça te donne bien mon niveau de j'en peux plus.
Ouais, ouais. Oula, il va construire un truc.
Tu arrêtes de construire.
Ramasser un caillou, non.
Ça, on peut pas l'acheter plutôt.
C'est ça. En fait, t'es un sale capitaliste.
Payer d'autres gens pour faire le travail à ma place, tu veux dire, c'est ça?
Ouais, en fait, tu préférais que ça soit en microtransaction qu'en crafting, c'est ça? C'est
pas du tout. Non, pas du tout. Je refuse ces propos. Mais par contre, là, moi, j'ai beaucoup joué à Zelda Tears of the Kingdom, et puis là aussi, tu dois ramasser 700 trucs. Au bout d'un moment, tu sais même plus pourquoi tu les ramasses. Tu les ramasses parce qu'ils sont là, puis pour suivre les conseils que Vertigo m'avait donné, puisque lui, il est plus avancé dans le jeu que moi, il m'avait dit... Tue tout ce que tu vois et ramasse tout ce que tu vois parce que ça va être utile à un moment donné parce que tu vas tomber sur une fée qui va te demander as-tu 46 grenouilles pour améliorer ta tenue. Ben non, parce que jusqu'à maintenant je pensais que ça servait à rien.
Alors que je traînais tout le long derrière.
Voilà, exactement. Donc
la réponse juste c'est ben oui, bien sûr, j'adore collectionner les grenouilles.
J'ai mon sac géant là où j'ai 200.
C'est une logique imparable.
Ouais. Mais justement, dans The Forest, ce qui est intéressant, c'est que tu peux pas transporter non plus. Des trucs à l'infini, quoi.
Ah ouais, c'est, ok.
Je sais plus, c'est un poids maximum ou un nombre d'objets maximum, mais au moment, tu ramasses les trucs, puis ils retombent devant toi en boucle, et puis...
Ça me saoule.
Ouais, mais on revient au truc, quoi. C'est le but, c'est d'être un peu réaliste.
Non, mais on est tout à fait d'accord.
Ouais. Plus que, justement, ces inventaires infinis où...
Ouais.
Hop, je mets une échelle dans mon slip.
Exactement, le Rackroft qui a 12 000 armes dans son petit sac.
Ouais, exactement, ouais.
Il est pas mal, ce sac.
Ok, et j'avais une autre question, mais maintenant je l'ai perdue, c'est pas grave. Est-ce que toi t'avais une question?
Non, je crois pas.
Non, ok. Pas. Autre chose à rajouter?
Non, on n'a pas joué beaucoup. Ouais. Si je découvre des choses intéressantes, j'en parlerai lors d'un prochain podcast.
N'hésitez pas à nous interrompre, priorité au direct.
Ça, oui, si j'ai quand même une question.
Oui, je vous en prie.
Parce que nous, on avait joué... maintenant, j'ai un blanc sur le nom... C'est Chérie, j'irai traiter les gosses en survival.
Grounded,
exactement.
Donc, un jeu aussi qui est assez sympa.
Qui est franchement sympa, ouais. Et il y avait une histoire. Enfin, tu vois, il y avait quand même un scénario que tu peux finir ou trouver. Là, il y a quelque chose comme ça. Tu peux finir le jeu ou...
Je pense que si tu retrouves Timmy, t'as réussi, quoi. Mais il n'y a rien d'autre, quoi. Il y a vraiment un côté, t'es lâché sur une île et puis il n'y a pas de... Okay. On ne donne aucune indication.
D'accord, ouais. C'est juste par curiosité de savoir s'il y avait un cadre comme ça.
C'est bien parce que ça m'a fait retrouver ma question. Bon. Il s'appelle vraiment Timmy.
Je crois que ça s'appelle vraiment Timmy.
J'ai l'impression que les enfants en danger s'appellent toujours Timmy.
Facilité d'écriture, qui nous tient.
Donc n'appelez jamais votre enfant
Timmy. C'est ça, ils sont en sécurité.
Vous gardez-le très près de vous dans l'avion. Quoi.
J'ai joué à un jeu vidéo, je sais ce qui peut arriver.
C'est ça.
Ok, très bien, merci beaucoup. Donc The Forest qui est donc le premier volet du jeu et le deuxième est sorti en décembre de l'année passée, mais le premier est toujours jouable et bien jouable, donc c'est très bien.
Ok,
merci beaucoup.
Mais y a pas de quoi.
À toi, Teiki.
À moi.
De quoi veux-tu donc nous parler tu donc?
Je veux parler de Bon, trois choix, je vais faire très bref sur les deux premières.
J'en doute, mais vas-y.
Oui, je sais, oui. Enfin, en même temps, on me connaît. Hein. Non, Portal, je voulais juste du coup ajouter que de ce que j'ai testé pour l'instant, ça marche plutôt bien.
Oui.
En se disant vraiment, j'achète pas, c'est pas une Switch, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, sur la boîte qu'ils nous ont envoyée, c'est pas marqué console, c'est marqué lecteur à distance.
Ouais, donc...
C'est bien ça. Oui. C'est une manette avec un écran dedans, et puis ça t'allume ta console à distance et ça te la stream. Quoi.
Mais si je peux déjà vous interrompre, je trouve que c'est une excellente chose, parce que j'imagine le consommateur moyen qui est pas amateur de jeux vidéo, il se dit, tiens, j'achète la PlayStation portable, et puis du coup, il se retrouve avec un périphérique avec lequel il peut rien faire, c'est pas une PSP. Donc,
exactement.
C'est pas une PSP, exactement.
Ouais, donc il te faut une PS5 à la maison.
Ouais.
Et pas une PS4, on est d'accord que...
Ouais, PS5, alors c'est une... Ouais, non, mais je pense vraiment que c'est que PS5.
Ok.
Puis franchement, en fait, un truc qui marche bien, c'est l'ergonomie du truc, je la trouve vraiment agréable. Mm-hmm. En fait, ça, c'est hyper agréable à tenir dans la main, l'écran est vraiment chouette. La qualité, et ça, bon, je mettrai des détails dans un peu de quel jeu j'ai testé, mais typiquement God of War et surtout Horizon, c'est hallucinant la qualité sur l'écran. Enfin, l'écran, il...
Ouais.
C'est beaucoup mieux, je crois, qu'une Switch et qu'un... Alors que l'OLED, je sais pas, j'ai jamais vu. Mais de ce que j'ai regardé, c'est mieux que l'écran du Steam Deck, par exemple. Okay. Ah, au niveau qualité.
Ok.
J'ai pas été regarder les spécifications exactes, je regarde ça pour le test écrit, mais et franchement, c'est un, pour moi, c'est un assez cool aspect du truc.
Ouais.
T'as ton truc portable, mais avec une quand même bonne qualité de jeu.
Ouais.
Donc voilà. Et puis bon, le reste dans le
ouais, mais il te, non, moi j'ai encore des questions.
Oui, alors, vas-y.
ils te font un réseau Wi-Fi.
Oui, alors c'est Wi-Fi.
T'es pas en 5G.
Ah non, bah alors tu... Non, il y a pas de 5G
dans la console.
Dans la console.
Voilà. Ouais.
C'est un, ouais, c'est une bonne remarque. Peut-être ça serait un truc intéressant.
Ouais, ouais.
À part ça, de pouvoir mettre du 5G ou autre dans la console, mais là, bah tu fais du hotspot sur ton Natel ou tu te branches sur le Wi-Fi. Wi-Fi.
Ouais.
Comme ce que j'ai testé juste avant le podcast aujourd'hui.
Ouais.
Là, ça marchait super bien. Pour le coup.
Et du coup, il y a une distance limite par rapport à ta PlayStation ?
Ben, non, c'est par rapport au Wi-Fi.
Ok, ouais, donc tu peux jouer sur un autre continent. Enfin, y a
pas alors, ben, alors, autre pays, j'en sais rien. Maintenant, okay. S'il y a des limitations que je ne comprends pas, de type DNS, machin, truc, firewall et autres joyeusetés que je ne capte pas, mais peut-être, hein. Mais je crois que j'ai regardé, il y a pas mal de gens qui jouaient quand même en vacances, donc je crois que ça devrait le faire.
Bah, c'est vrai que en théorie, tu devrais pouvoir, vu que t'es pas dépendant du Wi-Fi de la console. Enfin, il faut que la console soit allumée à la maison, sur connecter un Wi-Fi, puis après toi tu connectes un peu comme un TeamViewer sur un PC ou un partage d'écran.
Par contre, t'es dépendant d'avoir une connexion qui a un bon upload aussi.
Ah bah
et
oui.
Enfin, ouais. Pour les commandes, enfin, puis d'avoir, en fait, d'avoir une très bonne connexion d'upload à la maison.
Ouais.
Si possible, brancher sur le câble. Ce que j'ai pas fait, hein, pour le coup, et ça marche quand même bien.
Ta console, elle est en Wi-Fi. Ouais. Ah, ouais. Ça c'est téméraire.
Mais pas avec une connexion de dingue, donc.
Ouais.
Non, ça marche étonnamment bien. J'ai lu que les gens se plaignaient, par contre, si t'es dans un hôtel ou dans un endroit où tu dois d'abord passer par une page web pour.
Ah oui,
machin,
bah oui. Ouais, ouais.
Là, faut magouiller tout un bordel pour pouvoir. Y arriver parce que la console n'est pas faite pour.
Ah ouais.
Ouais. Bah, déjà, paraît-il que ces Wi-Fi d'hôtel où il faut passer par une page, c'est des. On dit des passoires sécuritaires.
Ah ouais,
y a d'autres vous en parleraient mieux que moi, mais je crois que ce n'est pas une bonne idée.
Ouais, vous connaissez NordVPN ?
Ouais. Ah bah tiens, ce podcast est sponsorisé. Ah bah non, pas du
ah
tout.
Bah non, mince.
Et du coup, en termes d'autonomie ?
Bonne question.
J'imagine que c'est une batterie.
C'est
pas des piles.
Ouais, c'est une batterie, exactement. Écoute, je sais pas, j'ai fait des sessions de jeu, puis je l'ai laissé après, ça a l'air de tenir 4-5 heures. Si, okay. Je sais pas, faudrait que je regarde vraiment de full à zéro. Mais j'ai l'impression que c'était un petit peu, comment dire, pas random, mais des fois j'ai l'impression que ça tenait super bien. Puis quand ça arrive vers la fin, c'est un peu comme l'essence. T'as coup.
Ouais.
Ah ouais. Il faudra que je reteste. Non, mais okay. Ça tient largement assez pour faire des sessions. Mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé genre, en voyage.
Ouais, okay.
Donc je pouvais la remettre chargée. Puis voilà. Ça a l'air d'aller, mais sans plus.
Moi, je suis toujours curieux de savoir qui est visé par ce périphérique.
Alors, j'ai une réponse pour toi.
Ah.
J'ai une réponse pour toi.
Génial.
Parce que c'était très clair sur le Reddit de la PlayStation Portable.
Ouais.
Portal, pardon.
Ouais.
Que je suis allé voir pour, à un moment donné, j'ai un problème technique, je regardais. Puis, enfin bref. C'est que des papas.
Ah ouais.
Mais 100% des gens qui postent j'ai reçu ma PlayStation Portable, c'est une photo dans le salon avec, je sais pas, les enfants d'un côté ou.
Les duplos.
Ou la femme
au fond,
qui regarde une série. Puis toi, t'as ta PlayStation Portable.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment le.
C'est marrant ça.
Et c'est vrai que je me posais la question parce que quelque part l'intérêt peut paraître très limité ou des gens qui voyagent beaucoup.
Mmh. Ouais.
Moi honnêtement, le truc c'est bon, je sais pas, ma copine qui peut regarder une série, je prends pas la télé, ou je peux aller me poser sur le canapé un peu calfeutré à côté du feu. Puis alors moi j'aime bien le feeling d'être sur une console portable plutôt que sur l'écran du salon.
Mmh.
De temps en temps, c'est un truc qui me plaît, je sais pas.
Mmh, ok, ouais.
Tout le monde la même chose, mais. Ouais. Mais c'est vrai que je sais pas si tout le monde paierait 200 balles juste pour ça. C'est-à-dire que t'as déjà la console avant. Et...
Ouais, tout le monde n'a pas forcément l'utilité, quoi.
Ouais, ouais. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est si effectivement ils ont pas leur public, un public cible assez grand et qu'ils laissent tomber le truc après. C'est un peu le raisonnement que je me faisais, je sais pas.
Au niveau du support technique, tu dis,
ok. Ouais. Ouais. Parce que là, moi, honnêtement, je pense, peut-être c'est pas urgent, mais je pense que je m'en achèterais volontiers une après.
Ouais.
Je trouve ça cool. Et le prix, C'est drôle, parce que je vois beaucoup de critiques sur le prix. Elle est, en Suisse, j'ai vu, elle est 219 à la Fnac. Et puis, par contre, je sais pas pourquoi, notre magasin Digitech était 300.
Alors, c'est une édition limitée.
Écoute, je sais pas. Ouais. Fortnite. Mais même pas. Est-ce qu'il y avait un jeu avec, peut-être? En tout cas, à 200 francs. Alors, il y a plein de gens qui disent, ah, trop cher, machin. Et en même temps, une manette de PlayStation, c'est quoi? C'est 80 balles?
Ouais, ils abusent sur les manettes. Ouais.
Alors, c'est déjà abusé, tu me diras. Donc, peut-être que, voilà, le point de comparaison, du coup, n'est pas forcément valide. Mais t'as un méga écran avec. Ça fonctionne bien. Bon. Ouais. On peut voir les choses sous plein d'angles différents. Moi, je trouve que ça va encore. Ça aurait été entre 150 et 200, ça aurait été peut-être parfait.
Ouais, ouais.
Là, je trouve qu'il n'y aurait pas eu des critiques à faire. Mais ça va encore, je trouve.
Moi, je questionne encore le côté consommation électrique. Oui. Parce que, tu vois, je me souviens quand je me souviens d'une présentation Xbox, à l'époque Xbox One à la Gamescom, okay. Où on nous expliquait, on disait, mais voyez, vous pouvez, à l'avance, depuis votre téléphone, vous pouvez activer votre console pour que quand vous arrivez à la maison, elle est déjà allumée, ou quand vous arrivez à la maison, vous dites Hello Xbox, et puis elle s'allume toute seule. Ouais. Moi, je me disais, mais ça marche quand t'es un gros ricain qui laisse tout allumé à la maison en partant. Ouais. Chez moi, tout est sur multiprise, tout est éteint. Donc là, je me demande si je fais le parallèle avec le fonctionnement de la Portal. Déjà, c'est la Portal ou le Portal, on ne sait pas. Est-ce que tu vois, ça veut dire que tu dois laisser quand même ta console tourner à la maison. Alors, comme tu as dit, tu peux la mettre en veille et puis tu peux la réactiver à distance, ce qui est assez cool, mais tu dois quand même la laisser brancher. Et puis,
alors, c'est clair que, en fait, ce n'est pas pour les salles écolos.
Voilà, exactement.
Non, mais c'est effectivement une bonne question. C'est que faut que ta console soit en mode. Je sais pas si c'est obligé que ce soit veille, mais en tout cas sur le secteur avec l'électricité et ce mode activable à distance.
Ouais.
Donc de toute façon, tu auras une console qui sera un peu du coup. Enfin, tu peux pas couper ta multiprise. Par contre, effectivement, tu peux l'allumer et l'éteindre que quand tu l'utilises. Et je me disais, c'est de la console à double parce que tu allumes la console à la maison et la console portable sur toi.
Ouais.
Mais ta télé est pas allumée.
Ah, c'est vrai.
Finalement, donc. Je pense que recharger ta Portal consomme moins que faire tourner un énorme écran, je pense. Mais...
Ouais, c'est vrai. Pas bête.
Parce qu'à la limite, je me disais, suivant le setup, je sais pas, mais tu pourrais avoir ta PlayStation Slim dans le bureau, je sais pas où, même pas branché sur un écran, puis tu joues sur ta Portal. Ouais. Tu me diras, ça fait cher le setup. Hein, pour. mais vu qu'on est dans le mode américain consommation.
Oui.
Allons-y.
Ouais, c'est très bien, exactement. Les gamers bourgeois.
Exactement. Pas mal comme clan.
Ok, mais c'est vrai que c'est... Voilà, je me demandais qui est visé par ça. Moi, je me disais, je suis pas sûr d'avoir l'utilité du l'objet, mais l'objet a l'air bien fichu, quoi. Le périphérique a l'air...
Je trouve, a priori. Bien, Bon, je peux arrêter d'en parler?
Oui, pardon.
Parce qu'en fait, c'est normalement, je vais faire 2 minutes.
Ouais, non, je savais que tu serais pas bref.
Alors, je vais couper plus, du coup, sur le deuxième. Vous poserez moins de questions.
Oui, monsieur.
J'ai juste joué au DLC de God of War Ragnarok Valhalla.
Valhalla.
Qui est, rappelons-le, gratuit, quand même. C'est quand même assez rare.
Si t'as le jeu de base.
Ah oui, bien sûr.
Tu peux pas le faire tourner
Non, ok, d'accord. Okay. Mais voilà, c'est quand même un DLC gratuit.
Oui, c'est vrai.
Qui est sorti de nulle part en plus. C'est genre, en fait, on vous a rajouté un DLC comme ça pour le.
Tu as un DLC, tout le monde a un DLC.
et qui est en gros. Déjà, ça continue l'histoire. Alors, dans un monde un peu moins cinématique, mais ça continue quand même l'histoire.
Ah, ok. C'est ma grande question.
C'est méga cool. Il y a des dialogues, il y a des lore, il y a plein de trucs qui se passent.
Bon, ben, je vous laisse. J'ai un truc à faire.
Non, mais par contre, en fait, ce que je trouve assez bluffant, c'est que du coup, c'est un roguelike.
Ouais.
Et en fait, c'est un putain de bon roguelike.
Ah, ouais.
Ouais, mais franchement, et ça me passe là, moi, on en avait parlé, mais dans Ragnarok, les combats sont cool, mais j'avais surtout envie de faire l'histoire.
Oui.
Et là, du coup, t'es concentré beaucoup plus sur le combat parce que t'as ton roguelike, tu choisis quelle arme tu vas améliorer ou pas en chaque machin. Et tu te concentres vachement plus sur le combat d'une autre façon. Et en fait, je trouve que le jeu s'y prête vachement bien. Et c'est hyper cool.
Ouais.
C'est franchement bluffant. Pour dire que c'est gratos en plus.
C'est Kratos.
Oui, oui. Je chantais quelqu'un allait le faire, hein, c'est horrible.
C'est tout pour moi, merci. Alors, moi, je me demandais, t'avais fini quand Ragnarok?
Vers sa sortie.
Ok. Et donc, de te remettre dedans, de reprendre les contrôles, de te réhabituer au... ça vient
très vite. Tu te prends un peu débranlé au début, okay, clairement. Ouais. Mais l'avantage, c'est que vu que c'est en mode roguelike, tu commences, t'as quasi pas de trucs, enfin d'attaque spéciale, t'as rien, bah tu peux reprendre un peu les commandes aussi au début.
Ah ouais, ok.
Donc en fait, ça s'adapte franchement bien.
Bien fichu.
Ah ouais, non. Ah. Et nouveau, l'histoire, ouais, ça serait spoiler un peu.
Non, tu spoil pas. D'accord. Bah, tu dis la fin de Ragnarok ou la fin de...
Non, alors c'est pas sur la fin de Ragnarok, c'est sur... Ils remettent des éléments du passé de God of War. Et ouais, trop bien, quoi. Enfin,
c'est cool, parce que une critique, entre guillemets, de ce reboot de God of War, c'est que t'es un peu déconnecté du passé. Enfin, ce que moi, je trouve assez compréhensible. Je sais pas si toi, tu y avais joué.
Non, mais j'ai vu des let's play, j'ai discuté avec plein de gens qui
ont joué. Okay. Ouais. Bah, c'est que moi, je trouve que c'est cohérent dans l'histoire où tu vois bien qu'il veut, que Kratos veut tourner la page et puis c'est derrière moi et puis maintenant je commence quelque chose de nouveau. Mais du coup, si là, ils rattachent un peu les wagons avec le passé, c'est pas mal.
Ouais, et ils le font super bien. Au niveau de la narration, c'est... Ah. Et la narration fait beaucoup penser à Hades, où à chaque itération, t'as des nouveaux dialogues. Et ben, c'est un peu la même thématique, donc forcément, ça rappelle un peu. Mais ouais, franchement, très bluffant. Dans les jeux que j'ai actuellement, en fait, c'est sur ça que je suis en train de loin le plus crocher.
Ouais. Okay. Cool. Et pas Avatar.
Ça va. C'est sympa, il y a des bonhommes bleus sur une planète.
On en parlera.
Oui, lance-moi pas sur un autre truc.
Pardon.
J'ai toujours pas parlé du jeu dont je veux
parler. Non, excuse-moi, j'ai cru que c'était de ça dont tu voulais parler. Mais on a le temps, on est large.
On a le temps, c'est bon, c'est vrai.
Donc tu le recommandes?
Oui, je le recommande à fond, ouais. Franchement, méga... Bah ouais, en plus, franchement, le DLC surprise gratos...
Ouais, ils sont sympas quand même, ces grosses corporations.
Ouais, ça c'est magnifique.
Truc gratuit. Ah, il y a Plisken qui est tombé de sa chaise.
Non, c'est vrai que c'est rare qu'il soit fair play pour nous.
Ouais, c'est ça, exactement.
Il y a sûrement un piège.
Il y a un piège. Probablement, quand t'arrives à la fin, il y a un type qui arrive chez toi et qui te demande 100 balles.
Bonjour, on a vos enfants. Il faut payer maintenant.
Fini de jouer.
Donc, tu voulais parler d'un autre jeu.
Oui. Alors,
c'est pas Destiny.
C'est pas Destiny. Ah, ouf. C'est Final Fantasy XVI.
Combien?
16. 16, oui, monsieur.
D'accord.
Donc, pris en sandwich entre Final Fantasy VII, Rebirth 18, enfin machin, qu'on a fait l'année passée.
Plus même, il y a deux ans.
Deux ans maintenant.
Il a tout pété leur timeline.
Et le deuxième opus du septième reboot arrive tout bientôt au moment où on enregistre le podcast. Et il y avait ce 16 au milieu qui était un peu étrange parce qu'ils se sont dit si on donnait ça au type qui a fait Devil May Cry. Alors je sais pas s'il a fait d'autres trucs de Final Fantasy, mais du coup, les combats, c'est du live, quoi. Et ça ressemble beaucoup à Devil May Cry.
Ah, c'est plus du tout du tour par tour.
Plus du tout.
Ouais, d'accord.
Et c'est marrant parce que le jeu m'intriguait. Puis je me suis dit, je sais plus quand je l'ai acheté, mais j'avais envie d'acheter un nouveau jeu d'un truc que je fais pas habituellement. Puis tiens, il avait l'air un peu étrange. Je lance le truc. Et c'est quand même bon, quoi. Franchement, il y a plein de défauts à jouer. Et je pense que c'est ce qui le rend aussi un peu peut-être intéressant. C'est que c'est de loin pas lisse et tout parfait. Mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un de ces opus de Final Fantasy qui est une sorte de stand-alone au niveau de l'univers, avec il y a à nouveau des chocobos, il y a les comment ils appellent les invocations là, les énormes Bahamut, Ifrit, tout ce bordel. Et là, en fait, c'est un univers à la Game of Thrones mêlé à en gros Attack on the Titans avec les invocations. En fait, c'est plus vraiment des invocations, c'est des gens. Je spoil le contexte de base, pas le dénouement, mais
le spoilomètre est bas. Tu peux
Dire, bon. des gens naissent tout à coup avec, ils appellent ça des dominants, naissent avec Ifrit en eux. Okay. C'est le gars qui a Ifrit en lui, qui va devoir le gérer. Puis en général, ces gens-là sont capturés par des pays. Et en gros, c'est toute une métaphore comme un peu de, voilà, de l'arme atomique, quoi. C'est, tel pays a telle arme gigantesque et tient en respect l'autre parce qu'ils ont aussi. Et en fait, tout le jeu est vraiment en mode géopolitique, très Game of Thrones, avec des trahisons, des machins, des trucs. Alors, c'est plus ou moins réussi suivant les moments de l'histoire.
Ok.
Mais ça reste franchement super prenant. Et ce côté des... Il y a tout un focus, en fait, sur un groupe de rebelles qui... C'est quand même des humains, ces gens qui ont des armes atomiques dans l'estomac.
D'accord.
Et puis, évidemment, ton personnage est mêlé à ça. Et c'est franchement cool. C'est ultra prenant, l'histoire. Moi, j'ai vraiment adoré. Alors, il y a des longueurs immenses, parce que c'est quand même un JRPG. Mais bordel que c'est prenant, l'univers est super cool et alors les combats sont bien, un peu répétitifs quand même à la longue, mais sont très spectaculaires. En fait, il y a deux modes de combat. Il y a tu tombes sur les petits bonhommes dans la pampa et puis tu te bats contre des ennemis, puis tu fais tes trucs à la Devil May Cry. Et puis il y a les combats de d'invocation. Où là, ça passe en mode tiens, prenez tous du LSD et de la coke et c'est bah c'est un des trucs les plus spectaculaires du moment, je pense. C'est vraiment hallucinant et ça te marque. Franchement, c'est trop cool.
Ok.
C'est over too much. En gros, ça passe en mode Dragon Ball rencontre rencontre tous les trucs
il
too much.
Les Power Rangers.
Ouais, c'est fumé à souhait. Mais c'est franchement assez grandiose et puis ça. Ça va dans cet univers, quoi. C'est Final Fantasy. Donc, pour moi, c'est une sacrée réussite sur ce plan-là. Vraiment.
Et même si t'as joué à aucun Final Fantasy avant.
Alors, si, j'ai fait les.
Ce que je veux dire, c'est si quelqu'un. Pardon, ma
question n'était
pas. Oui.
Si quelqu'un n'a jamais joué à un Final Fantasy.
Je pense que ça va très bien, en fait, du coup. Okay. En plus, peut-être, ça passe mieux parce que t'as pas. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient déçus par rapport aux attentes qu'ils avaient. Ah, mais c'est plus du tour par tour. Ah, mais machin, mes trucs. Et oui, il y a un truc sur lequel les gens buguaient, et pour moi, en fait, ça m'allait bien. C'est que c'est focalisé sur un personnage. T'as ton personnage principal, c'est Clive, machin, qui tient toute l'histoire. Alors qu'avant, c'est vrai que t'as quand même plus ce focus sur le groupe, t'as ton groupe de personnages. Là, en général, t'as ton personnage et un ou deux qui t'accompagnent.
Oui.
Mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déçus. Moi, bah voilà, c'est différent. Mm-hmm. T'as un peu l'impression de jouer plus un MMO, comme ça, t'as ton personnage à toi. Je sens que t'as des questions plus qu'elles, non?
Mais je réfléchis parce que, moi j'ai pas rejoué à des Final Fantasy depuis le 8. Mais y a toujours ce feeling un peu monde fantastique, j'imagine épique, vu que, comme tu disais, le contexte et tout.
Alors, moi, je pense que c'est clairement ce qui m'a fait jouer et ce qui m'a gardé dedans.
Ouais.
L'univers, il est vraiment prenant, quoi. T'as envie de continuer. D'ailleurs, je pensais, il y a un season pass avec deux petits DLC que j'ai acheté. J'ai fait le premier petit DLC qui est sorti assez vite. T'as envie d'y retourner, quoi. Enfin, moi, honnêtement, j'ai envie de retourner dans ce monde-là. J'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir le développement des personnages. Puis, t'es dans un monde, médiéval fantastique à la Game of Thrones. En gros, par moment, c'est Game of Thrones. Et puis, par moment, ça part en vrille dans des trucs ultra épiques.
Ouais.
Donc, vraiment. Le feeling, il est hyper agréable de ce côté-là.
Ok.
Avec tout un côté mystérieux que tu vois venir à, je rien spoiler, mais que tu vois venir à vraiment un milieu, mais qui est quand même agréable parce que ça reste quand même, tu sais pas trop. Je sais pas si le dénouement va se faire dans le deuxième DLC. Je sais pas quand il sort d'ailleurs, mais, univers très prenant.
Ça veut dire que t'as fini le scénario principal aussi?
Ouais. Non, alors je l'ai bien poncé, du coup ça m'a pris jusqu'au.
Mais ça veut dire que le dénouement est pas dans le scénario principal?
Oui, il y a un dénouement de l'histoire.
Okay.
Mais il n'y a pas forcément un dénouement sur l'explication complète de l'univers de ce Final Fantasy-là. Ça a des indices, mais...
Ok. Mais c'est un peu... Ça, c'est un peu le côté... t'achètes un bouquin, puis il te manque le dernier chapitre, puis tu dois le racheter à côté.
Non, c'est pas... Non. Tu peux tout à fait finir là-dessus. Okay. L'histoire se termine et tout. C'est plus...
Un peu à la Star Wars épisode 4. Genre, si t'as vu que ça, bon, bah t'as vu que ça, et puis ça te suffit, quoi.
Ça pourrait.
Excellent. Parallèle, très bien.
Et puis, c'est plus un peu, ça me fait penser, je sais pas, à des Bloodborne ou des trucs comme ça, où t'as une histoire de fond. Bah, t'auras peut-être pas tout le dénouement, en fait. Où tu dois aller un peu mettre les éléments ensemble. Puis après, toi, tu as ton histoire de la campagne, que ça, tu finis. Et puis...
Ouais, ok.
Mais ça va assez bien. Puis pour parler des trucs pas bien, quand même, parce que...
C'est trop long, c'est beaucoup trop long.
Alors, c'est beaucoup trop long.
J'étais sûr.
Non, mais clairement, les quêtes sont nulles à chier, la ah plupart. Ouais. Malgré, c'est marrant, parce que je lisais des trucs, ah ouais, c'est mieux, les quêtes... Bon. En fait, il y en a trop, c'est trop long, et puis les dialogues... Alors oui, en fait, ce qui est embêtant, c'est que t'as des quêtes où les dialogues et les personnages sont vraiment bien, mais elles se noient au milieu des 100 autres, donc au bout d'un moment... T'écoutes plus, puis tu passes les dialogues, puis en fait, il y en avait peut-être des super.
Mais... Ah ouais, t'as plus envie de les lire.
Ouais.
Ok, d'accord.
Après, t'as quand même envie d'explorer l'univers, donc ça rattrape un peu le coup. Mais voilà, ça, c'est un problème. L'autre, désolé, c'est le loot. Non, mais là, enfin, je l'avais mentionné la dernière fois, je crois, c'est l'autre extrême, quoi. En fait, c'est un système de craft et de loot qui ne sert à rien.
Ah.
Mais en fait, ils auraient pu vraiment juste l'enlever. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu bats un boss, t'as un objet qui te permet de crafter l'épée suivante, qui a exactement chaque fois 10 de plus, et les ennemis sont 10 de plus plus forts, j'en sais rien. Et en fait, à chaque fois, tu recraftes la nouvelle épée. Il n'y a aucun choix, il n'y a aucune diversité, il n'y a aucun effet différent. Elle a juste 10 de plus d'attaque. Et chaque fois, t'as le truc à ce moment-là de l'histoire où t'as... Alors, à un moment, tu peux aller faire 2-3 petites quêtes pour faire celle qui a 30 de plus au lieu de 10 de plus. Puis y a rien, y a aucun effet, c'est nul à chier, quoi.
Ok, ok.
Et du coup, franchement, ils auraient pu juste enlever complètement le truc et juste dire que ton bonhomme était plus fort ou ouais. Je sais pas quoi.
Avec l'épée ou alors ou le boss te donne la nouvelle épée et puis on en parle.
Ouais, c'est très bizarre parce que ça donne un peu l'impression qu'ils ont mis toute une mécanique mais qui a été laissé tomber, ou je sais pas, qui a pas été utilisé. Par contre, le développement des compétences et des attaques et de l'XP, elle est cool.
Ouais.
Tu choisis qu'elle, ça, elle est vraiment cool. Tu peux la refaire quand tu veux. Tu peux tester plein de trucs. Ça marche bien. Mais les objets ne servent à rien du tout, quoi. C'est assez choquant comme,
C'est vrai que par rapport à ce qu'on disait avant, c'est un peu l'inverse, mais extrême. L'extrême inverse.
Ouais, okay. Puis du coup, tu te dis, mais mets pas le système, quoi. Investis pas des ressources là-dedans de développement. Plus toutes les épées, il y en a. Ce qui est bizarre, il y en a des tonnes.
Ouais.
Elles ont toutes la même gueule. Et puis elles. Enfin, ouais.
Mais justement, tu vois, je me disais par rapport à la remarque de Plisken où on dit, mais en fait, le boss te donne l'épée. Moi, je me dis, un jeu comme ça, j'ai l'impression que ça existe presque plus. Où tu bats. Un peu comme les vieux Zelda où tu trouvais l'objet dans le donjon qui te permettait de progresser.
Elden Ring.
c'est vrai, ça marche comme
ah,
ça
oui.
Dans
Elden Ring. Ah ouais.
T'as pas de crafting dans Elden Ring.
Non, Elden Ring, c'est la vie. Non, mais okay. Alors Elden Ring a okay, remis okay. ça.
Ah, ok, fond, bon, quoi. Alors très bien, j'ai toujours pas joué à Elden Ring. Mais ouais, alors très bien, parce que ça répond un peu à ma question. Parce que je me disais, est-ce que c'est pas un truc un peu qui se perd où tout le monde veut absolument crafter sa propre épée finalement, si t'as un boss qui te donne une épée, moi ça me va très bien. Un flingue ou peu importe. Mais...
Baldur's Gate 3, pardon, aussi. Il y a du craft, mais moi j'ai jamais rien crafté. Tu peux faire tes potions, tu peux faire tes trucs.
C'est le jeu qui te donne. Les nouvelles choses.
Tu peux les acheter à des marchands ou comme tu dis, tu tues un boss ou un ennemi puissant, puis il a une super bonne arme, puis tu la prends, quoi. Mais il n'y a pas de.
Ouais, c'est comme 10 fois mieux, quoi.
Je trouve.
Ouais. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, ce truc de crafting, toujours, ça enlève un côté de. Mais même dans une espèce de narration de fond, j'ai fait ça, j'ai gagné cette épée magique.
T'as l'épée de machin.
Ouais, c'est vrai que ça enlève complètement ça et c'est chiant, quoi.
Ouais.
Et alors, pour le coup, Elden Ring, franchement. C'est ça, 1000%.
Ok. Bon, je vous laisse encore.
D'ailleurs, moi aussi, je...
Ok. Et tu disais que c'était trop long. Tu sais combien de temps ça t'a pris à peu près pour finir la...
Ouais, je sais plus, il faudrait que j'aille regarder.
Ouais,
80.
C'est pas grave, ouais.
Comme ça. Avec le DLC.
Oh, ah ouais.
Mais si tu veux, c'est pas que... C'est trop long. Donc, quelque part, moi, j'ai fait des jeux super longs. Cyberpunk, on va pas en parler. Il y a des moments où tu te fais chier.
Ouais, alors ça c'est un problème.
Parce que c'est ces quêtes intermédiaires. Moi j'avais quand même envie d'un peu tout faire. Il y a un truc que j'ai pas fait, j'y retournerai peut-être. C'est des espèces de challenges de combat, mais qui sont beaucoup plus durs que ce que je pensais.
Ouais.
Parce que ça aussi, le jeu est trop facile.
Ah.
Je trouvais vraiment les combats, tu défonces tout. Alors c'est spectaculaire, mais tu défonces quand même un peu tout. Mm-hmm. Et les boss, il y a un boss dans le DLC, alors il te la met bien, mais mais sinon tu les, enfin il me semble. Mmh. Tu les bats quand même assez, assez simple. Je sais plus si j'ai mis en difficile, il me semble.
C'est parce que t'es extrêmement doué aussi.
Ah, mais ouais, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, il te dit, êtes-vous Taiki?
Oui.
L'homme extrêmement doué pour les combats.
Nous adaptons notre joueur très bien. Ouais.
Mais c'est un peu trop simple et trop répétitif.
Ouais, okay.
Mais sauf, ouais, dans le DLC, puis certains boss, bon, ils sont spectaculaires et tu prends du plaisir à gagner ton combat.
Ouais, ça c'est cool.
Mais je sais pas comment dire, l'écart entre les bestioles de base et les combats chouettes est très grand.
Ouais, d'accord. Ouais.
Donc, ouais.
Très bien.
Mais je recommande le jeu, vraiment. Moi, c'est un de mes jeux préférés de cette année, je pense. Enfin, de l'année passée.
Ouais.
Et il est sorti, si jamais, en juin de l'année passée, Square Enix, blablabla.
Sur tout support.
Last Gen, je pense, et je sais pas s'il y a sur PC. Non, en fait, il est sorti que sur PS5, peut-être. Ah non, Windows et PS5.
Ah ouais.
C'est quand même un peu une exclue, donc.
Ah mais oui, parce qu'il y a eu une polémique qui disait des joueurs Xbox qui râlaient parce que Square Enix faisait que des jeux Xbox, que des jeux PlayStation. Et puis là, Xbox vient d'annoncer, ils ont un partenariat sur Vision of Mana.
Ok.
Ou je sais plus quoi Mana, qui est un énième de la série des Secret of Mana.
Ah oui, c'est juste, je viens de pas voir ça.
Ils viennent d'en parler cette semaine où ils ont annoncé de manière surprenante, ça c'était surprise, c'était pas prévu comme ça, que voilà, il y a aussi des jeux Square Enix chez Xbox, ne pleurez pas, etc. Mais par contre, Final Fantasy reste attaché à la marque PlayStation.
Ouais. Mine de rien. Ouais. C'est pour ça que j'avais acheté une PS1
à l'époque.
2 à l'époque.
Ouais, pour le 7.
Ouais
voilà. Ouais. Ok.
Et puis,
oui.
Il y a un côté un petit peu monde ouvert, qui n'est pas trop abusé, mais et tu peux te balader en chocobo dedans.
Pas mal.
Ça, c'est cool.
Très bien. Autre question? Bon, très bien.
Dernière remarque. Oh, les musiques sont incroyables.
Ah, cool.
Vraiment incroyables. Ouais. Bon, comme dans la plupart des Final Fantasy.
Épique. Très bien.
J'arrête de parler, promis.
Mais non, c'est très très bien. J'aime bien quand vous parlez. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation là. Et moi, je vais encore vous parler un petit peu, vu qu'on est que trois. Je profite un peu de parler de mon jeu du moment aussi, qui est Prince of Persia Lost Crown. Le reboot du remake de cette vieille licence qu'est Prince of Persia. Et, donc, je sais pas si vous aviez joué à l'époque au tout premier.
Non.
Oui, pendant que tu parles, j'ai des espèces de flashbacks, des pics qui sortent du sol et des sauts que tu rates.
Exactement, c'est ça. Et puis après, il y a eu un reboot avec les Sables du Temps, que moi j'ai adoré. Et puis il y a eu encore d'autres après. Donc cette trilogie des Sables du Temps, puis après il y a encore eu un ou deux épisodes auxquels j'avais pas joué. Et puis là, c'est retour vraiment aux sources, puisqu'on est dans de la 2D. Comme à l'époque justement, mais animé avec toujours des pics, mais aussi d'autres adversaires. Et puis, alors moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je le trouve très très cool. Je le trouvais aussi. Enfin, je trouvais qu'il arrivait à un moment où on perd un peu confiance en Ubisoft. Donc le jeu est édité par Ubisoft et développé par Ubisoft, par l'équipe qui a fait Rayman, donc je crois que c'est Ubisoft Paris, ou je sais plus, je vais pas dire de bêtises, donc en tout cas je crois que c'est le même studio. Et donc Ubisoft qui enchaîne un petit peu les déchéances là entre...
Les décans venus.
Ouais, les décans venus, exactement. avec Skull and Bones qui est encore et encore reporté, Avatar dont t'as touché juste un tout petit mot avant, qui a pas l'air de convaincre vraiment, qui a pas l'air mauvais en soi, mais Assassin's Creed Mirage qui est un peu entre deux, qui est censé être un DLC puis finalement est un jeu standalone, et puis il a l'air cool mais pas complètement complet.
Ubisoft Montpellier.
Montpellier, merci beaucoup, j'avais un doute. Merci d'avoir corrigé. Donc voilà, je trouve qu'il arrive à un moment donné où Ubisoft est un peu en demi-teinte. En plus, ils n'arrêtent pas d'enchaîner ils ont un projet de FPS compétitif, ils l'ont annulé. Là, ils viennent d'annoncer aussi un jeu compétitif où le trailer, on comprend pas trop ce que c'est. Ils ont fait des prises de position sur les microtransactions, puis surtout les crypto-monnaies, où après ils font machine arrière en disant oulala, non, c'était une blague, c'est pas du tout ça, c'est vous qui avez rien compris, c'est pas ça qu'on voulait dire.
Lol.
Ouais, c'est ça, prends-nous pour des cons. Je sais pas si vous avez entendu ça aussi. Il y a eu une publicité cachée dans Assassin's Creed Mirage pendant un temps de chargement.
Non.
Il y a une publicité qui s'est affichée chez certains joueurs pour un autre jeu Ubisoft. Puis après, ils ont dit, ouais, non, c'était une... Quand les gens ont dit, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, je suis en train de jouer, puis j'ai une pub pour un jeu qui s'affiche. Et puis apparemment, Ubisoft aurait dit, oh, c'est un bug, c'était pas prévu que ça s'affiche. Ouais, c'est ça.
Ouais. Ah, j'adore voilà. Ça, non, j'avais pas entendu.
Donc
ça.
Vraiment, Ubisoft, là, commence un peu je trouve, à avoir du mal à garder la confiance. Puis ce jeu arrive à ce moment-là. Et ça fera le lien aussi avec le sujet de notre discussion tout à l'heure, mais Prince of Persia, je le trouve vraiment cool. Il est vraiment chouette. Alors il a des défauts, hein. Peut-être j'en toucherai qu'un mot, mais vraiment je le trouve cool. Il est prenant. Donc il est sous forme de comment on appelle ça, de cinématique platformer, donc un peu sous forme un peu comme Ori, The Blind Forest, mm-hmm. où tu dois Metroidvania, un peu, le voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Tu dois développer, acquérir certains pouvoirs pour pouvoir continuer. Il y a des endroits où t'es bloqué et tu dois revenir plus tard, et ils s'inspirent clairement de tout ce qui marche, hein. Il y a du Ori, il y a du Castlevania, il y a du Metroid Dread dedans. Par exemple, il y a un ennemi que tu peux pas vaincre, et que si t'entends, il te pourchasse jusqu'à ce qu'il te chope, ce qui était exactement une des mécaniques de Metroid Dread. Okay. Donc tu vois bien qu'ils ont fait la checklist de qu'est-ce qui marche bien dans les Metroidvania en ce moment. Mais ils ont aussi réussi à amener 2-3 trucs en plus. Par exemple, ils te laissent la possibilité de choisir, est-ce que tu veux que le jeu te dise où tu dois aller, ou en tout cas te donne des indices visuels sur où tu dois te déplacer, ou alors il t'enlève les indices, puis tu vas vraiment te débrouiller comme tu veux. Et ça, je trouve très cool. Une mécanique que je trouve très intéressante dans la manière de concevoir l'exploration du labyrinthe, c'est que tu peux faire des captures d'écran dans le jeu, et ça te met une épingle sur la carte. Par exemple, si tu te dis, ben là je vois bien qu'il y a un mur qui brille en jaune et j'ai pas le pouvoir pour détruire le mur jaune, ben je peux mettre une épingle avec la capture d'écran, et comme ça je peux me dire, je peux revoir pourquoi est-ce que là je pouvais pas passer. Parce que dans d'autres jeux, ben tu te dis, oh, je sais plus pourquoi est-ce que je suis pas allé là, tu refais tout le chemin, puis tu dis, ah ben oui, parce que j'avais pas la clé pour ouvrir le machin jaune. Tandis que là vraiment tu peux mettre cette capture d'écran, je trouve ça une super idée. Et puis il y a des indices comme ça visuels dans l'exploration, par exemple, quand t'arrives dans certaines salles, il y a des pétales de fleurs qui flottent dans l'air, et ça te dit que pas loin il y a un point de sauvegarde, et tu peux sauvegarder que à ces points là mais ça veut dire que ça te donne aussi une indication, vu que t'as plusieurs embranchements, tu te dis, ben, est-ce que je vais en haut, je continue mon exploration, ou est-ce que je suis les pétales de fleurs qui mènent vers le bas, je vais peut-être d'abord en bas sauvegarder, puis après je vais en haut. Et ça, je trouve très cool dans la manière dont tu t'appropries l'environnement et le décor, le level design. Donc ça, je trouve ça très très cool. Ils ont mis l'accent sur les combats, plus que dans d'autres Metroidvania, justement. Là, il y a vraiment toutes des sortes de combos. Ben, tu parlais de Devil May Cry avant. Mm-hmm. Pour moi, il y a un côté très similaire aussi, où tu peux justement faire des enchaînements. Tu peux envoyer les ennemis en l'air, faire des combos en l'air, les envoyer au sol, etc. Ça marche moyen. C'est-à-dire que tu vois que c'est une mécanique qui est bien présente, mais je trouve que, en fait, elle est un peu trop rêche, t'as un peu du mal à te l'approprier, et puis tu te retrouves un peu à faire toujours les mêmes combos. Il y a un système de parade qui est très difficile à mettre en place. Là, je pense qu'ils se sont un peu inspirés des jeux difficiles en ce moment, comme Elden Ring ou autre From Software, parce que tu peux pas juste garder la parade, tu dois vraiment parer au bon moment.
Ouais.
La fenêtre,
c'est à la mode.
Pardon.
C'est à la mode.
Oui, c'est ça, exactement. Mais tu peux pas. La fenêtre de parade, elle est vraiment très courte.
Ok.
Et puis, par contre, il y a une esquive. Et l'esquive, ben, elle te permet de combiner les deux. Et au début, j'ai trouvé que c'était. Il y avait un côté un peu rude dans ce jeu. Ben, l'image du jeu, c'est si Ori était un liquide, ben Prince of Persia, c'est du sable, quoi. Tu sens que ça.
C'est rugueux.
C'est rugueux. Puis au début, je me suis dit, ouais, c'est pas évident. Puis plus je joue, plus en fait, je me dis, non, en fait, c'est cool. Parce que c'est quelque chose qui semble aller à contre-courant de ce qui se fait. Donc au départ, tu te dis que c'est contre-intuitif. Puis en fait, en jouant, tu dis, mais en fait, non, je trouve que c'est original et que ça marche bien. Mais par contre, il faut désapprendre des trucs que tu as appris dans d'autres jeux. Tu peux pas te contenter justement d'essayer de parer. Tu dois vraiment parer, esquiver, faire deux coups, okay. Puis pas enchaîner ton combo. Tu dois vraiment interrompre ton combo, repartir, etc. Puis en fait, je trouve que ça marche bien, mais l'apprentissage, il est pas intuitif. Et c'est là où peut-être qu'il y a un défaut du jeu, c'est que je pense qu'il y a des gens qui vont jouer puis se dire, en fait, ça marche pas comme je m'attends à ce que ça devrait faire.
Ok. Ouais.
Et après, moi, j'ai trouvé que l'histoire était cool. C'est une histoire de paradoxe temporel parce que le prince arrive dans un palais abandonné pour sauver un gamin. Il s'appelle pas Timmy. Mais en fait, il commence à croiser des gens. Par exemple, quand il arrive, les soldats qui sont partis une heure avant lui, ils sont morts par terre depuis une centaine d'années. Ils disent, c'est pas possible, ils sont arrivés une heure avant nous. Et puis après, il va commencer à croiser des gens qui sont tout d'un coup plus vieux ou plus jeunes. Et puis ça crée un peu des histoires de paradoxes temporels. Et tu sens au début qu'il y a des trucs qui t'échappent. Tu dis, l'histoire, je la comprends pas parce que c'est pas logique. Puis justement, le lieu joue avec ton esprit. Ça, c'est assez cool. Et voilà, moi, je trouve que ça marche bien. Et puis, les combats de boss sont vraiment cool. Parce qu'il y a vraiment des patterns à apprendre où, un peu comme tu disais là avec Final Fantasy, les boss, ils te maravent. Mais vraiment, au début, t'es là, ouch. Et là, ce que je trouve assez bien fichu, c'est que le système de sauvegarde te propose au boss de reprendre au début du combat du boss. T'es pas obligé de repartir... au dernier checkpoint, ça c'est très bien, mais tu dois vraiment apprendre les patterns du boss, puis combiner tous les pouvoirs, les esquives, les combos. Tu dois vraiment faire appel à tout. Tu peux pas juste te contenter de maraver le bouton frappe, et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Donc moi je le recommande vraiment, mais si justement je pense qu'il parle pas à tout le monde, et je comprends vraiment pourquoi il peut ne pas parler à tout le monde, donc ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger la démo. Ça, c'est très bien, il y a une démo, elle est gratuite.
C'est trop bien,
donc,
ça, je l'ai téléchargé. J'ai pas encore lancé, okay.
Donc allez faire la démo, si ça vous parle pas, forcez-vous pas non plus, ça vaut pas la peine, mais moi je trouve qu'il est vraiment vraiment cool.
Vas-y.
Non. Bon.
Mais parce que moi je me dis, ouais, c'est enfin, tout ce que t'as dit, comme tu dis, enfin, il a pas un côté beaucoup trop accessible, qui est un peu le reproche que beaucoup de gens ont fait, notamment au Assassin's Creed. Enfin, tu parlais du système de parade. Moi, je les ai pas tous faits, mais c'est vrai qu'il y a un côté où, t'as joué une heure, t'as tout compris, et c'est bon, il y a plus rien à.
Ouais, alors, dans le sens qu'il est, pas trop accessible, c'est ça que tu veux dire.
Ouais, pas beaucoup trop accessible, comme pouvait l'être certains.
Exactement. Moi, je pense qu'il est, un peu
exigeant.
Exigeant, exactement. Et puis, alors après, la question, c'est est-ce que il y a un côté trop exigeant, et puis donc du coup, ça devient contre-intuitif, puis ça marche plus. Moi, je trouve qu'il est entre les deux, mais qu'il faut un peu se faire violence pour se dire, comme tu dis, c'est pas accessible première approche. Je me rends bien compte en le disant que ça peut sembler particulier, parce que moi je suis le premier à critiquer un jeu quand on dit faut jouer 5 heures puis après tu verras c'est bien. Non, si c'est pas bien dans les premières heures, pourquoi je continuerai? Là ça a pas pris 5 heures avant que tu te sentes dedans, je trouve.
Ouais, ok.
Pour la petite histoire, je viens de me rappeler qu'il y a aussi une démo de Final Fantasy XVI.
Ah bah très bien.
Et c'est ce qui a fait que j'ai acheté le jeu aussi. Parce que du coup, tu testes, tu vois un peu. Puis c'est vrai que c'est tellement agréable de pouvoir avoir une démo.
Bah oui, c'est trop bien. Je trouve trop cool que les éditeurs remettent l'idée des démos sur la table. Parce que avant, c'était hyper bien. Enfin, on recevait nos CD joysticks avec les démos dessus. Ou les CD PlayStation, hein, ça marchait aussi. Mais comme ça, tu peux vraiment te faire une idée du jeu. Et puis tu sais si
le jeu va te plaire. Ça revient un peu. Hein, Tekken 8 aussi, ouais, comme une démo.
Ouais, Street Fighter 6 aussi.
Ouais.
Il y avait. Ça, c'était bien. Vive les démos. Donc, moi, je vous recommande ce Prince of Persia et puis de faire l'effort un peu de voir ce qu'il a à offrir un peu plus que dans les premières minutes.
J'ai une question. Ouais. Si on est une brêle de Metroidvania, c'est-à-dire que moi, un truc que j'ai beaucoup de peine, c'est de devoir revenir en arrière tout le temps, faire plein de trucs. C'est très comme ça ou pas?
En fait, pas trop, et moi je me suis j'ai changé un peu mon mindset, comme on dit, c'est-à-dire que
tu ferais pas du coaching toi.
C'est-à-dire que j'ai parcouru le jeu en me disant je suis un peu mon instinct. Et puis je vais pas, parce que ce que je faisais avant, c'est que je faisais le tour de toute la salle.
Ouais, tu canaries tout.
Voilà. Puis après, là, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que je choisis un chemin, j'y vais, puis on verra bien si je dois revenir en arrière. Ce qui fait qu'effectivement, je dois revenir en arrière, mais j'ai aussi l'impression que je perds moins de temps. Parce que d'habitude, vu que je me heurte à beaucoup de portes fermées, là, je suis un chemin qui est ouvert, puis après, je dois revenir. Ce qui marche assez bien, c'est que la carte est pas trop grande par rapport à un Metroid Dread, où parfois des fois je me dis mais je sais plus du tout où je suis ou comment je vais rejoindre ça. Là, la carte, elle est hyper lisible, et traverser les salles se fait hyper vite.
D'accord.
Donc c'est revenir en arrière, c'est pas si compliqué. Et surtout, ils ont mis en place un système de téléportation.
Ah ouais,
tu dois débloquer certaines pierres qui te permettent de téléporter. Donc
ça va, c'est pas
ça,
trop.
Ouais, ça va, okay. Exactement. Ah, puis un truc que j'ai pas dit aussi, c'est, je trouve très cool comme il y a plusieurs environnements, plusieurs biomes, et en fait, le style change radicalement quand tu changes d'environnement. Donc, tu commences dans le palais où c'est très, justement, les mille et une nuits, après, tu te retrouves dans la forêt, il y a un côté un peu plus, presque Final Fantasy, un peu, dans cet ordre d'idées, et à un moment donné, il y a un endroit où tu vas dans des catacombes, et là, j'avais l'impression d'être presque dans un Dead Space.
Okay.
Donc ouais. Vraiment le design il change.
Ouais, c'est chouette,
c'est ouais. Vraiment cool. Vraiment moi j'ai vraiment une très bonne surprise. On y avait joué à la Gamescom l'été passé et je sais plus si j'ai déjà raconté cette anecdote mais moi elle me fait marrer. À un moment donné il y a la porte qui s'ouvre donc on était dans un stand, on était que deux à jouer avec Joris. Que je salue évidemment et la porte du stand s'ouvre et puis je vois du coin de l'œil un type qui entre en costard cravate et tu vois machinalement je tourne juste un petit peu la tête comme ça puis du coup je reviens à mon jeu puis ça fait oh merde c'est Yves Guillemot. T'as le patron d'Ubisoft qui est derrière toi puis qui te regarde jouer à son jeu. Maintenant avec le recul, je me dis j'aurais dû m'arrêter de jouer et profiter de lui poser des questions. Ouais. Mais sur le moment, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je joue bien. Après, mais non, c'est pas ça.
C'est pas le prof.
Exactement, exactement.
C'est pas lui qui doit te juger. C'est le
prof. Exactement, c'est ça. J'aurais dû saisir l'occasion. Bon, peut-être qu'il aurait pas accepté de répondre à des questions, mais avec le recul, je me dis j'aurais mieux fait de lui poser des questions plus que tôt que de jouer à son jeu. Mais le jeu est très bien. Donc à un moment donné où Ubisoft est un peu dans la tourmente, ben Prince of Persia, je trouve qu'il est bienvenu. Il révolutionne pas le genre, fait que tu vois qu'il a, comme j'ai dit avant, il collecte un peu ce qui marche bien chez les autres jeux, mais moi je trouve qu'il vaut la peine.
Ok, ça me donne envie d'essayer en tout cas.
Ouais, parfait.
Parfait, on va pouvoir passer à la deuxième partie de ce podcast, juste après ce petit jingle. Et donc la deuxième partie de ce podcast va être justement en lien avec transition toute trouvée puisqu'on parlait de Prince of Persia et d'Ubisoft juste avant. On va partir de la déclaration de Philippe Tremblay. Je me permets l'accent puisqu'il est canadien, mais je pense pas qu'il est québécois, qui est le chargé de, enfin le responsable des services abonnement de Ubisoft, qui a déclaré cette semaine qu'il fallait que les joueurs prennent l'habitude, s'habituent à ne plus posséder leur jeu et qu'il faut qu'ils soient confortables avec ça, puis qu'ils arrêtent de râler, puis que maintenant ça allait être comme ça, et qu'il faut plus espérer posséder son jeu, mais plutôt vraiment participer à un système de location. Et d'abonnement. Donc, je me suis dit, il y a deux manières de voir les choses, mais avant d'aller plus loin, peut-être avez-vous déjà un avis, une opinion sur cette phrase.
On n'aime pas. Non, pas.
Ouais, vas-y, bah, comme je disais pendant qu'on préparait le podcast, ouais, il y a un côté, moi, en tant que communiste, moi je suis pour qu'on ouais. passe de la propriété privée à la propriété d'usage. Enfin, il y aurait des réflexions ouais. intéressantes à avoir là autour, mais... Est-ce que lui, il est prêt à abandonner la propriété privée de ses moyens de production et à partager l'entreprise avec ses employés? Est-ce que, enfin,
ouais.
j'ai envie de lui retourner la question.
Mais c'est une très bonne idée. Donc la prochaine fois que je vais à la Gamescom, je lui pose la question. Mais exactement, je trouve que c'est une très bonne réflexion, très intéressante, parce que si on pousse l'idée plus loin, c'est ça. C'est effectivement, on arrête l'idée de possession individuelle et puis on est dans quelque chose de beaucoup plus collectif. Mais alors là, ça veut dire que de leur côté, eux aussi doivent s'habituer à ce que eux aussi ne possèdent plus leur jeu et ils le mettent à disposition d'une autre manière. Réaction à chaud.
Ouais, je t'avoue que je sais pas trop du coup, parce qu'il y a ouais. un côté, ça paraît... Il y a ce truc un peu inévitable, ok, on a Netflix, on a machin, puis ouais. tout va un peu vers ça.
Ouais.
En même temps, ça devient aussi un truc insupportable, mm-hmm. parce que tu dois avoir des abonnements partout, parce que mm-hmm. c'est bien gentil, mais on va se retrouver avec l'abonnement Ubisoft, l'abonnement Activision, l'abonnement truc, l'abonnement bidule.
Ouais.
Ça va, enfin voilà, ça commence déjà un petit peu Game Pass, PlayStation machin. Ouais. Et puis, ouais, je sais pas, je sais pas trop comment faire.
Ouais, mais qu'est-ce que ça représente pour toi l'idée de posséder un jeu ou pas, par exemple?
Bah, je pense effectivement pour des jeux que j'aime bien, ça m'embêterait vraiment de ouais. plus l'avoir sous le coude si je veux le montrer à quelqu'un des années plus tard ou si mm-hmm. ou bêtement s'il n'existe plus quoi. Enfin, il est plus du tout atteignable nulle part. Ça me plaît pas des masses quoi. Clairement.
Oui, parce qu'on avait parlé du game as service dans un précédent podcast où la conclusion chez nous, c'est qu'on était globalement contre, on trouvait que ça pouvait pas être un modèle qui tient la route. C'était dans le numéro 21, si vous voulez réécouter l'épisode. Mais justement, je me dis, est-ce que... Enfin, la conclusion de cet épisode 21, c'était que le modèle économique actuel, il tient pas la route. Si on vise le game as service, on voit que déjà que les joueurs sont pas forcément contents, et joueuses aussi, avec ça. Donc, si aujourd'hui on devait repenser le modèle, ben effectivement on pourrait se tourner vers quelque chose de beaucoup plus communiste, qui me parlerait aussi beaucoup plus d'ailleurs. Mais après ça ouvre la question de la conservation du média. Hein, comment on fait pour rejouer un jeu 20 ans plus tard quand en fait il est plus sur la plateforme, alors que on l'avait acheté ou pas. Justement, est-ce que c'est un service d'abonnement, ben on l'a plus. On le voit aussi déjà avec Netflix, hein, qui dit le film il est plus là, et puis bah, tu reçois un mail qui dit attention, ces films quittent bientôt la plateforme. Le Game Pass fonctionne comme ça aussi. Au départ ils te disent regardez, on a un catalogue monumental, mais en fait chaque mois il y a des jeux qui quittent le catalogue. D'ailleurs, fun fact, savez-vous quel jeu de Rockstar a disparu du Game Pass quelques semaines après l'annonce d'un numéro 6?
Ah ouais, c'est vrai.
C'est un peu beaucoup d'indices dans ma question. Ouais. Mais effectivement, Rockstar, le GTA 5 n'est plus dans le Game Pass depuis la fin de l'année passée. Okay. Donc on voit très bien que là, c'est pas pour rien. Enfin, ils viennent d'annoncer le 6. Tout le monde se dit, oh oui, GTA, je m'en souviens, c'était cool. Donc j'ai envie de le revendre.
Voilà. Ouais.
Bah tiens, il y a peut-être moyen de le revendre encore un coup. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, ce système d'abonnement, à mon avis, il n'est pas viable sur le long terme. Mais
après, au-delà de l'abonnement, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a un côté aussi où, par exemple, les jeux Steam, le jour où Steam il a plus de serveur du jeu que tu as acheté, bah, tu peux plus trop y jouer non plus, non?
Oui. Sauf erreur, alors je sais pas si c'est toujours le cas, il me semble, mais de ce que je me souviens il y a quelques années en arrière, il était clair que Steam, en fait, tu possèdes pas les jeux. Ouais. Que tu achètes dans Steam, en fait, c'est un service de location à vie. Sauf
que tu payes qu'en une fois,
c'est très compliqué. Exactement. Mais en fait, on possède pas les jeux, on a accès à la licence. Et si effectivement Steam décide de couper le jeu ou de couper le serveur, ben tu y as plus accès.
Ce qui est un peu scandaleux, parce qu'il y a plein de jeux que tu peux jouer hors connexion. Enfin, il y a aucune raison qui décide
Ouais, clairement.
Non, c'est ce qui a posé. Après, ça pose justement toute la question de la connexion obligatoire pour des jeux solo. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais toute cette question de la possession du jeu, moi je trouve que c'est en préparant ce podcast, on avait évoqué la question, est-ce qu'il pourrait y avoir un prochain crash du jeu vidéo comme il y a eu dans les années 80. Moi je me pose la question un peu plus sérieusement, parce que on voit que les modèles AAA par exemple, c'est colossal en termes de ressources, que ce soit humaines ou ressources autres. Et que finalement, ces AAA, ils ont des parts palettes, d'accord, mais il me semble que ces derniers temps, ben, c'est pas forcément les AAA qui marquent le plus. Si on reste dans la thématique Ubisoft, on a d'un côté Avatar qui sort avec un budget colossal, une licence qui est la licence la plus chère du cinéma, paraît-il, et qui débarque comme ça en jeu vidéo. Et je pense qu'il doit y avoir des milliers de personnes qui ont bossé dessus. Et puis toutes les critiques sont un peu mitigées. Puis après, t'as Prince of Persia qui sort, c'est entre guillemets un seul studio Ubisoft, donc Montpellier, et ça fait moins de monde qui bosse dessus, et les gens sont plus convaincus, d'après l'ensemble des critiques que je lis. Donc ce modèle-là, à mon avis, il pas tenable.
Ouais, surtout que alors là aussi, il faut me corriger si je dis des conneries, mais il me semble que j'avais vu que Assassin's Creed, c'était un peu le gros problème de la licence, c'est qu'ils doivent en sortir un par année. Il y a énormément d'argent en jeu et il doit marcher.
Ouais.
Si le jeu se plante, ça peut faire fermer le studio, en tout cas une des succursales du studio.
Ouais.
Et où du coup, ils doivent être le plus consensuel possible dans le but de plaire au plus de monde possible.
Ouais, ça c'est absurde. Enfin, je trouve que quand t'as un peu un esprit critique sur n'importe quelle forme d'art ou de culture, le truc consensuel, ça peut pas marcher. Enfin, au bout d'un moment, c'est...
Bah surtout si tu le répètes ad vitam aeternam, ça peut pas marcher. Ouais. Mais on voit ça aussi dans le cinéma avec notamment Disney, qui est le meilleur exemple de ça, quoi. Mm-hmm. Et qui aussi produisent d'énormes blockbusters avec énormément d'argent en jeu, et qui du coup doivent être rentables, et du coup faut que ce soit le plus lisse possible, que ce soit Marvel, Star Wars ou leur classique en live action, vous voyez pas mais je fais des guillemets. Mais je pense que c'est un modèle qui, ouais, là encore, tout arrive un petit peu au bout de sa logique, quoi. Mm-hmm.
Ça me fait penser d'ailleurs à une déclaration de, est-ce que c'est le CEO de Disney ou je sais plus qui exactement chez eux, enfin une des grandes têtes de Disney, qui disait que dans les grandes lignes, si leur dernier film marchait pas, toute licence confondue, c'était parce que le but de, d'après lui, le but de Disney, c'était de fournir du divertissement et pas d'être un vecteur politique, et qu'il y avait trop de volonté
de faire réfléchir,
de faire réfléchir, et puis ouais. Dans le sens, on va mettre justement d'autres, on va casser les codes, on va faire du wokisme,
pour ouais, pas, c'est la faute des wokes, ouais, c'est ça, exactement,
quoi. Voilà,
ils se cachent partout.
Donc là, t'as un peu envie de lui dire ouais. Ou alors peut-être que tes films Marvel en a un peu ras-le-bol, enfin peut-être qu'au bout d'un moment
ils sont de moins en moins bien, puis de moins en moins originaux, c'est toujours la même formule,
c'est ça.
Et en plus le gars confond arrêt divertissement, ce qui est quand même triste pour un mec qui gère un studio de stampeur.
C'est violent. Ouais, mais justement tu vois, je trouve que là il y a des parallèles qui sont intéressants avec les déclarations d'Ubisoft. C'est que on est constamment en train de traverser art, culture, divertissement, économie. C'est ouais.
Mais clairement, enfin, tu regardes le, comme tu disais, les sommes qui sont investies maintenant, puisque ça représente, puis comme tu disais, la nécessité absolue que ça marche, et puis ça crée quand même un truc. Enfin, je joue quand même pas mal, mais t'arrives pas à faire tout ce qui sort. C'est genre, c'est de la folie, puis ça devient. Je sais pas, c'était sur Twitter. T'as tous les jeux qui arrivent, c'est énorme la surenchère qu'il y a. Puis au bout d'un moment, ce que je pensais pas qu'elle allait arriver, mais il y a un côté où quand je regarde tous les jeux qui vont sortir, la plupart, j'ai l'impression que c'est un espèce de gros magma des mêmes trucs un peu.
Ouais.
À part certains trucs, forcément, il y a des choses qui sortent du lot, encore heureux, mais ça devient gentiment aussi, bah, comme tu disais pour ces jeux-là ou pour le cinéma avec Marvel, t'as les formules triple A, t'as les machins, t'as les formules un peu entre deux.
Ouais.
Non, t'es là, ok, ouais, ça va sortir, c'est l'énième machin comme ça, c'est l'énième. Et puis, ouais, je sais pas si on va se lasser, mais peut-être qu'il y a assez de gens pour que finalement, la lassitude se.
Peut-être, mais moi je trouve que ça rajoute un côté un peu anxiogène à cette industrie. Je me suis fait la réflexion en regardant justement le Xbox Developer Direct de cette semaine, où justement ils ont annoncé plusieurs jeux, dont un jeu Indiana Jones, dont pour une fois je me réjouis. développé par Machine Games, qui avait fait Wolfenstein. Mais je me suis dit, mais en fait, dans ces présentations-là, alors c'est hyper corporate, ils vont dans les studios, ils filment des gens qui ont l'air de vivre leur meilleure vie dans leur boulot, tous les locaux sont tellement cool, ils font de la moto dans les corridors, enfin c'est petite moto. Et puis pendant que t'as quelqu'un qui parle derrière, t'as, tu vois les employés qui sont en train de, enfin ils font très bien semblant de travailler, ils sont flous, mais tu vois qu'il y a, tout le monde, ça a l'air cool, il y a des néons, enfin voilà.
Et un baby foot.
Et un baby foot. Et voilà, exactement. Puis un distributeur de, je sais pas quelle boisson, etc. Puis en fait, je me disais, mais toutes les présentations, elles avaient le même, tu voyais qu'ils, bon, clairement, ils ont reçu un cahier des charges, vous allez devoir parler de ça, de la musique, etc. Et tous, ils disaient vraiment merci beaucoup de nous rejoindre dans cette aventure. Puis il y a un des jeux qui s'appelle, maintenant j'ai un blanc, c'est un jeu de stratégie qui ressemble hyper à Civilization. J'ai un blanc, je suis désolé, je vais le retrouver après.
Ouais,
et du coup, c'est pas Ava, mais bon, bref.
Humankind
Non, ah, non. Okay. Mais du coup, je me disais, qu'est-ce qui fait que ce jeu va marcher? Parce que t'as l'impression d'avoir. Déjà, il est peut-être très bien, je n'ai aucune idée, je ne l'ai pas essayé, il n'est pas sorti du tout. Mais pourquoi ce jeu-là plus qu'un autre? Comment on fait aujourd'hui, comment tu fais pour être développeur de jeux vidéo puis avoir confiance dans ce que tu fais? Si tu n'arrives pas à te dire, en fait, je m'en fiche, je ne fais pas ça pour l'argent, mais il faut quand même manger à la fin du mois. Enfin, il y a un truc où je me dis, mais aujourd'hui, quand tu te lances dans le développement de jeux vidéo, ça doit être flippant. Pour te dire, comment je vais faire pour que mon jeu il sorte du lot et alors que de l'autre côté, t'as un mec d'Ubisoft qui dit il faut que les gens s'habituent à plus posséder leurs jeux. Puis que toi, tu dis ouais, mais il faudrait quand même que les gens ils me l'achètent. Enfin, je sais pas. C'est... Moi, je trouve qu'il y a un côté anxiogène là.
Ouais, schizophrénique presque.
Ouais, presque, ouais.
Mais j'en parle à pratiquement chaque podcast, donc je vais très vite passer dessus. Mais c'était Bolshegeek qui avait fait une vidéo sur le jeu indépendant et sur Hades en particulier.
Ouais.
Qui était vraiment intéressante, où il interviewait notamment des gens du syndicat du jeu vidéo en France.
Oui.
Et qui montrait comment le jeu Hades avait été produit, comment les gens étaient rémunérés, comment les employés étaient traités. Enfin, si la question, parce que justement, en fait, ils le disent eux-mêmes, jeu indépendant, ça veut plus dire grand-chose. Enfin, il y a des.
Ok, ouais.
Ça, enfin, c'est un terme un peu fourre-tout, quoi. Mais il y a un côté où un jeu qui engage moins de gens et surtout moins de pognon, bah, tu peux te permettre d'être beaucoup plus personnel et du coup, c'est pas grave si tu le vends pas à 100 millions d'exemplaires, quoi. Mmh, c'est... Mmh. Et du coup, j'imagine que ça se fait de manière quand même plus apaisée aussi.
Et là, c'était le cas pour Hades, ou bien j'avais pas su pour l'événement. C'était un bon exemple.
C'était un très bon exemple du truc, parce que les employés étaient obligés de prendre leurs vacances, il y avait pas de crunch, je crois le jeu était en alpha, du coup ils pouvaient continuer de rémunérer l'équipe sans que tu vois la banqueroute arrive et que tu sais plus comment tu vas payer les loyers, les salaires des gens.
Ouais.
Enfin ouais, ça avait l'air vraiment plus sain comme modèle.
Ouais.
Et ils mettaient ça, ils comparaient avec des jeux de David Cage, donc bon, comme ça, ça la comparaison était évidente, quoi. Mais et ils disaient, mais en plus, forcément, le jeu est plus personnel, plus intéressant, moins mainstream que des.
Ouais, mais justement, alors on revient à cette idée que si tu fais un jeu moins mainstream, ça marche peut-être mieux aussi.
En plus, ça peut avoir cet effet-là, ouais. Clairement.
Petite parenthèse, j'ai retrouvé le nom du jeu, c'est Ara. J'avais Ava en tête, okay. Et c'est Ara. Mais effectivement, c'est toute la question de. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu marche et c'est quoi un jeu qui marche? Est-ce que c'est le nombre de ventes? Est-ce que le nombre de téléchargements? Enfin,
la renommée.
Oui, est-ce que combien de gens l'ont fini? Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est ça amène à se positionner aussi en tant que joueur ou joueuse. C'est aussi se dire, mais en fait, c'est quoi l'industrie qui nous donne ce truc qu'on adore faire? elle fonctionne comment? Et puis d'avoir ce genre de déclaration, je suis un peu sceptique quand même. Puis
après, on se demande toujours, est-ce qu'il le pense vraiment? Est-ce que c'est un peu de la provoque pour faire réagir?
C'est vrai que c'est pas impossible. C'est vrai, mais c'est.
Ou alors est-ce qu'il jette des trucs au mur, voir ce qui colle, voir ce qui colle pas, en se disant, si les gens réagissent bien, on va faire ça. Et puis si, comme tu disais avant, quoi, suivant comment les gens réagissent, on dira, ah non, mais en fait, c'était un poisson d'avril. exactement.
Justement, vu les différentes déclarations d'Ubisoft sur ces 5 dernières années, c'est vraiment la stratégie qui revient à chaque fois. C'est une très belle image. Ils lancent des trucs, ah, ça colle pas, on passe à la suivante. Puis pendant un moment, c'est oui, les crypto-monnaies, faut y aller, c'est trop bien. Ah, ça marche pas, bon, on a changé d'avis. Je sais pas. Moi, je me pose toujours la question comment on peut se positionner aussi face à ça, Alors après, moi, j'ai une réponse toute faite. Hein, comme je disais avant, le credo de Semper Ludo, vous jouez à un jeu 5 ans plus tard.
Ça marche toujours. Ça sera plus possible.
Ça sera plus possible. On fermera la boîte.
5 jours plus tard, oh mon dieu, il reste une semaine avant de jouer.
Ouais, mais alors ça aussi, j'y pense en t'écoutant là maintenant. Tout ce truc du day one, faut arrêter ça. C'est débile. Allez, je balance.
Vas-y.
Je me faisais cette réflexion, je me disais, est-ce qu'il y a une industrie moins importante que le jeu vidéo dans lequel on devrait pousser les employés à bout? Tu vois, tout le principe du crunch est de dire aux gens, il faut que le jeu il soit prêt à la date prévue, parce que s'il n'est pas prêt day one, les gens ils vont gueuler. C'est absurde. Enfin, on parle de jeux vidéo. J'adore le jeu vidéo. Je peux passer des heures à jouer à des jeux vidéo. Mais on s'en fiche si le jeu il n'est pas prêt à la date prévue. Et puis si les gens ils ne peuvent pas jouer day one.
Nous, on s'en fiche, mais pas les producteurs, pas les marketeurs.
Enfin,
tu vois, parce que ça me fait penser direct au cinéma où une fois ils t'annoncent un film.
Ouais.
Qui sort dans une année, ils ont pas commencé la pré-production et t'es là, mais ça va pas jouer les gars. Enfin, ça prend plus de temps que ça de faire un film en fait. Ça. Et du coup, le scénariste il doit écrire son truc en catastrophe, le réalisateur il doit commencer de tourner alors que le film est même pas fini d'être écrit, comme c'était le cas sur Alien 3. Enfin,
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment le côté genre non, mais c'est pas le public hein, qui stresse tout le monde, c'est le producteur qui a dit le film il sortira pour le Super Bowl et puis voilà quoi.
Ouais. Mais là, tu vois, dans le Xbox Direct, ils ont annoncé la date de sortie, par exemple, de Hellblade 2. Et le lendemain, sur Twitter, le compte officiel Xbox dit « pré-téléchargez ». Donc, le jeu est dans le Game Pass. Ils te disent « pré-téléchargez-le, comme ça, vous pourriez jouer Day One ». Je dis « mais il faut arrêter avec ça, on s'en fout ». Enfin, vraiment, c'est qui a besoin de jouer un jeu vidéo le Day One?
Je t'explique.
Oui. C'est pour ça que je t'ai invité.
Alors, pas que j'en ai forcément l'envie. Ça serait rare que j'ai un truc comme ça à l'heure actuelle. Mais, et en fait, ça fait partie de tout le schmilblick, entre guillemets, repris par le capitalisme là-dedans pour la vente. Mais quand tu vas sur Twitter, puis tu regardes les gens qui s'excitent sur cette histoire de Day One, je suis un peu un truc transversal sur du psychologique, mais.
Très bien.
Ce que les gens ils veulent, c'est participer à une expérience de groupe, en fait.
Bien sûr.
C'est se sentir dans un événement avec d'autres personnes, se faire mousser avant, en parler le jour même, le lendemain.
Ouais.
J'ai fait partie d'eux. En fait, c'est ça qui se passe. Alors, c'est exploité par le côté de vente.
Oui.
Mais en fait, c'est que ça.
Oui. Mais alors, je suis complètement d'accord avec toi. Puis évidemment, le phénomène de groupe, il est capital. Enfin. c'est une des raisons principales pour lesquelles, surtout, je pense, les jeunes jouent à des jeux vidéo. C'est aussi pour faire partie du groupe. Et puis pouvoir dire le lendemain, ah, j'ai joué au jeu, toi aussi, ok. Ben d'ailleurs, nous, on fait un podcast pour. pour enfin, même nous, quand on est vieux, ben, on continue de le faire. Mais on, nous, on peut le faire justement avec un certain recul. Et là, on voit que c'est, comme tu dis, c'est exploité. Et je me demande comment on pourrait faire pour alimenter ça, mais même 5 ans plus tard. Tu vois, de dire, ben, on peut créer ce phénomène de groupe. Parce que moi j'ai déjà entendu des potes autour de moi qui me disaient ah mais tu joues encore à ce jeu, il est sorti il y a 3 ans, c'est... là ouais bah il est toujours bien en fait,
c'est ça. Il est pas devenu nul en...
bah c'est ça ouais. Exactement,
tu joues toujours aux échecs hein. Ouais. T'es con hein.
C'est saut 2000 enfin même pas hein.
C'est ça, et je me dis comment on pourrait faire autrement pour alimenter ce sentiment d'appartenance à un groupe, mais sur le long terme, puis pas sur le day one où tout le monde se rue dessus, puis derrière t'as des gens qui crunchent comme des malades pour que, puis qui dorment plus, puis qui ont plus de vie sociale pour que des débiles puissent jouer le premier jour.
Nous, je sais pas, mais en tout cas, bah, ceux qui ont fait Cyberpunk, ils savent.
Ouais, ouais,
alors,
voilà.
Continuent de faire des jeux pas finis et où les gens pètent un câble, puis bah, ça va finir par... enfin, je sais pas.
C'est vrai, on l'avait pas vu comme ça, mais c'est...
À force de sortir des jeux pas finis, bah, Day One, les gens, ils gueulent, puis finalement, c'est un an après que le jeu, il tourne bien, et puis tu dis, ouais, bon, bah, entre-temps, j'ai changé d'autres jeux, qui, eux non plus, ont pas fini, enfin...
Ouais, mais moi, j'ai l'impression que les gens n'apprennent rien. Enfin...
Et en fait, c'est marrant.
C'est dur. Ouais.
C'est pas spécifique aux jeux vidéo.
Ouais, c'est pas faux.
Mais c'est vrai que ça fait penser, apparemment, maintenant, il y a une espèce de trend qui s'est fait, qui va un peu, qui fait les deux choses en même temps, en fait. C'est que, il y a un nouveau Monster Hunter qui a été annoncé, un format World, donc les gros formats, machin. Et du coup, Capcom a dit, hey, c'est un super moment pour jouer à World.
Oui.
Donc le dernier format grand. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a des, apparemment, il y a deux formats de Monster Hunter, plutôt portable, plutôt plus grand. Et puis du coup, tout le monde s'est remis à jouer à Monster Hunter. Ils ont des chiffres énormes.
Ah ouais.
Sur l'épisode de World, mais qui est sorti à un moment.
Ouais.
Et là, du coup, ça fait les deux. C'est que les gens jouent au vieux. Pour se préparer à jouer au nouveau.
Bah alors c'est ce qu'on disait avec GTA avant, tu vois. Effectivement, ils annoncent GTA 6. D'un coup, il y a un boom. Bon, je crois que GTA 5 ça s'est jamais mal porté, mais mais il y a un réintérêt. Et d'ailleurs Netflix qui sort au même moment, qui arrive à sortir les GTA 1, 2 et 3 ou en tout cas 3
sur leur plateforme.
Sur leur plateforme, c'est voilà. Mais du coup, ça marche. Là, on a un bout de réponse, même si de nouveau ça sert le capitalisme.
Mais c'est relancé par l'arrivée d'un nouveau truc.
Ouais.
Donc c'est...
Mais tu vois, si c'est dire, on a dans les cartons un nouveau Monster Hunter, il sortira quand il sortira, mais en attendant, vous savez que Monster Hunter World, c'est toujours très cool. Ah ouais, cool, on retourne dessus. Bah ça, moi, je trouve déjà beaucoup plus sain.
Oui, que de dire, faut absolument être la Day One.
Ouais,
c'est vrai.
Voilà, en tout cas, moi, je me disais, mais dans le rythme dans lequel on fonctionne aujourd'hui, c'est absurde que, qu'il y ait des gens qui doivent se mettre la pression de sortir un jeu à temps. Enfin, c'est pas un besoin vital de jouer. Encore une fois, j'adore ça. mais
j'ai pas joué à Portal depuis.
C'est ça.
Ouais, depuis 2 ans.
On a bientôt fini. C'est bon. Mais voilà, je me disais, mais en fait, c'est vraiment un truc où, si je devais faire une comparaison très naïve, je me disais, mais si les agriculteurs font pas leur boulot à temps, ben, on mange pas. Donc là, il y a une urgence. Mais si les développeurs rendent pas leur jeu.
Mais en même temps. Pour venir taper dans votre naïveté.
Oui, mais venez, je suis blindé.
Et je vais me mettre des gens en dos, je ne suis vraiment pas fan des compétitions sportives.
Ouais.
Mais tu regardes ce qu'on déploie pour des compétitions sportives qui ne sont pas du tout des nécessités vitales.
Alors, complètement.
Il n'y a rien de choquant, en fait.
Oui.
Bah ouais, tu pressurises. De toute façon, c'est. Ouais. Ça revient un peu à ce qu'on disait avant, quoi. C'est les producteurs qui décident, et puis bah, tu pressurises les employés jusqu'à ce que ça tourne, parce que bon, bah, le producteur a décidé, et que du coup, il essaie de créer une hype autour, et du coup, une partie du public devient exigeant là-dessus.
Ouais. Puis tu fais quand même un peu, enfin, je reviens là-dessus, mais tu crées un truc émotionnellement tellement nécessaire pour, enfin, qui devient nécessaire pour les gens. Ben voilà, ça s'emballe, quoi.
Mais justement, je pense qu'on peut peut-être militer pour que ce soit plus le cas. Enfin, pour moi, ça me fait penser à quand les grandes surfaces mettent en vente des fraises alors que c'est pas du tout la saison, en disant oui, mais c'est parce que les gens les demandent. Ben non, enfin, si vous arrêtez de les mettre à disposition, les gens ils les demanderont plus. Donc c'est aussi
les gens ils sont pas cons, ils savent bien que ça pousse pas en hiver, quoi.
Ben, enfin, voilà, exactement. Donc c'est aussi là où plus nous on sera, à mon avis, on peut faire passer ce message là aussi en disant ben en fait ouais 5 ans plus tard on peut toujours jouer à un jeu, il est très bien et je le possède donc je peux toujours y jouer, pour revenir sur la thématique de base. Ben je pense que on arrivera aussi à un peu donner une posture aux consommateurs, aux joueurs, aux joueuses, de dire, bah, nous, on a aussi un rôle à jouer quand on. Enfin, on peut aussi se dire, ouais, bah, en fait, je joue pas Day One, et puis ça ira très bien, quoi. Voilà.
Mais c'est vrai que pour prendre une approche, je crois que t'aimes bien par rapport, je sais pas, par exemple, des thématiques comme l'addiction.
J'étais sûr que t'allais dire ça.
Non, mais je rentre pas dans ce débat-là, mais
un jour, on le fera.
Je pense qu'il y a une importance à pouvoir donner une alternative dans le sens où, apparemment, ce truc d'engouement et d'aller se faire mousser sur Twitter pour sentir justement une appartenance de groupe, si on n'offre pas une alternative, bah, les gens vont pas vouloir.
Oh, bah, clairement, je suis complètement d'accord avec toi.
Il faut se dire, ça répond à un truc, cette histoire. Ouais. Alors, c'est bien exploité par pas les bonnes personnes, pas de la bonne manière, ça, voilà. Mais ça répond à une nécessité. Vous voyez, dans notre société, hein, on se retrouve plus le dimanche pour aller aux achètes dans le parc.
Donc, mais on devrait voilà. Faire des LAN dans le parc.
Oui, exactement. Et voilà. Des LAN dans le parc.
Ouais.
Un jour de plus, c'est un peu embêtant, mais.
Ah, on met une tente, on se débrouille.
Des parapluies.
Voilà, exactement. Bon, en tout cas, moi, j'ai envie de penser que si vous écoutez ce podcast, vous avez peut-être un avis aussi sur la question. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, rejoignez nos rangs de la résistance.
Abattez le capitalisme.
C'est ça. Très bien, on arrive gentiment au bout du temps qui nous est imparti. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter encore sur cette thématique?
Non, enfin, ouais. Méfiez-vous des réseaux sociaux.
Mmh, ouais, clairement, effectivement. Et
cet épisode du podcast ne vous appartient pas.
C'est vrai.
On va le louer.
D'ailleurs, pour écouter les deux dernières minutes, veuillez sortir votre carte bancaire. Très bien, je vous remercie beaucoup pour vos présentations, vos interventions. C'était très intéressant, j'ai trouvé. Donc, je vais vite répéter les jeux dont on a parlé en première partie. Donc, il y avait Mini Metro, jeu de gestion de station de métro. Assez intuitif, qu'on peut jouer sur plein de supports, et notamment sur smartphone, ça a l'air de bien fonctionner. The Forest, qui est un jeu de survie qui n'est pas le deuxième volet, donc qui est le premier, qui est toujours jouable, justement, qu'on peut jouer en coopératif, survie dans une forêt. On a parlé du périphérique Portal pour la PlayStation 5, qui permet de jouer à distance à ces jeux sur la PS5. Du DLC de God of War Ragnarok, qui s'appelle Valhalla, qui est très bien et qui est gratuit, mais il faut le jeu de base. Final Fantasy 16, juste, hein.
Oui, 16.
J'ai perdu le fil. Le 16e épisode minimum de la saga JRPG. Et Prince of Persia, le bien nommé de Ubisoft, qui est très très sympa, que vous pouvez aussi jouer sur absolument tout. Et on a dit, pour Final Fantasy et Prince of Persia, il y a des démos disponibles, donc allez les télécharger avant de vous faire un avis. Quant à nous, on se retrouve dans un mois à peu près. Dans deux semaines, vous allez avoir, si tout roule comme prévu, il y a un épisode de l'autre podcast qui s'appelle Une génération de retard, dans lequel on a deux collègues, les deux Thomas, qui se confient la tâche de découvrir un jeu auquel ils n'avaient pas joué encore. Donc on est en alternance une semaine sur deux. Vous retrouvez ces deux podcasts sur toutes les plateformes habituelles d'écoute. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux dont il faut se méfier, on l'a dit tout à l'heure. Vous nous retrouvez sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et puis évidemment, vous nous retrouvez aussi sur simpleludo.com, où vous allez retrouver des articles qui détaillent peut-être un peu plus certains des jeux dont on a parlé. Actuellement, mon article sur Prince of Persia est déjà en ligne. Et puis celui de la Portal devrait arriver dans peu de temps. Plisken, toi, t'as sorti un article dernièrement sur Fabulous Fear Machine.
Exactement.
Ouais. Qui a l'air très très cool.
Qui est très sympa, qui est surprenant.
Bonne surprise, ouais. Ok, donc allez lire l'article, ça vaut la peine. Et typiquement, c'est un genre de jeu qu'on vous encourage à découvrir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous, messieurs, pour vos participations.
Mais merci à toi.
Mais de rien.
Et on se voit dans un mois. À bientôt. Bonne journée. Ciao.
Ciao.
Yo.
Incredible podcast.